Bienvenue sur Bonne Réputation, le podcast où je décrypte les plus belles marques personnelles pour vous aider à construire la vôtre. Moi, c'est Mathieu, coach en personal branding la journée et podcasteur la nuit. Dans chaque épisode, j'interview un leader d'opinion qui fait autorité dans son domaine. On passe son image sur le grill, on analyse comment est construite sa marque personnelle, on découvre les secrets de ce qui a fonctionné pour lui, comment il est passé d'inconnu au bataillon à leader d'opinion, on ressort avec des méthodes pour construire la sienne. Parce que prendre la parole, c'est prendre le pouvoir. Avant de commencer, je voulais prendre 30 secondes pour vous partager un outil qui a changé ma vie en tant qu'entrepreneur indépendant, c'est Time, T-I-I-M-E. J'utilise Time depuis plusieurs mois, c'est le logiciel de facturation gratuit le mieux noté du marché, et depuis, bah, c'est vrai que ça me prend littéralement 30 secondes de créer une facture officielle, de potentiellement la modifier, l'envoyer, la remodifier, etc. Ça me prend deux clics. Time, il propose en fait devis facture, mais aussi un compte pro pour les indépendants et des outils intégrés pour les experts comptables. Ça me fait gagner du temps à tous les niveaux. J'aurais vraiment aimé connaître cet outil plus tôt dans mon parcours d'indépendant. Et c'est pour ça que je suis ravi de collaborer avec Time, qui est mon partenaire sur cet épisode, et de vous le partager. Donc si vous êtes freelance ou entrepreneur, vous pouvez y aller les yeux fermés. Je mets leur lien en description et je vous souhaite une bonne écoute. Salut Mathilde.
Salut Mathieu.
Merci beaucoup de nous rejoindre sur Bonne Réputation. C'est trop cool de te voir ici.
Avec plaisir.
Et je suis trop content parce qu'on s'est rencontrés, on a bossé ensemble, j'ai été ton client en novembre dernier, là on est en février 2024, le fait de bosser avec toi, ça m'a permis de te découvrir, d'abord de te découvrir par des chiffres, genre j'ai vu que c'est le moment où j'ai découvert que tu avais fait de 0 à 80 000 abonnés sur LinkedIn en un an, donc what the fuck, et au-delà des chiffres, quand j'ai creusé un peu, ce que j'ai vraiment adoré chez toi, c'est t'as une audience impressionnante, mais le comment tu l'as fait, c'est vraiment intéressant, je trouve. Notamment dans la posture que tu prends, la posture d'exploratrice, qu'on pourra opposer, bon, on va peut-être en parler pendant l'épisode, à la posture de l'expert. Parce que je trouve qu'il n'y a pas grand monde qui, comme toi, arrive à vivre des aventures, raconter ses aventures et trouver, en parlant de soi et de ses aventures, un écho chez autant de monde. Et je pense que ça peut aider beaucoup de gens qui nous écoutent. Il y a pas mal d'entrepreneurs et d'indépendants qui nous écoutent. Mmh. Ce podcast, c'est Bonne Réputation. On parle de personal branding, donc des gens qui veulent se lancer ou prendre la parole. Et en fait, beaucoup de gens sont bloqués par le « j'ai rien d'intéressant à dire » ou « j'ai pas envie de parler de moi, ça va pas intéresser les gens ». Et bah, toi, tu as pris cette démarche d'exploratrice où finalement, quand même, tu parles de toi et tes aventures. Et t'as trouvé un écho avec un Stade de France. Donc je crois que...
Quoi?
On remplit pas un Stade de France. Bah, c'est 80 000 personnes au Stade de France. Donc et je crois que maintenant, peut-être qu'elle a même augmenté ton audience LinkedIn et on parlera de tes autres canaux. Mais donc, c'est... Voilà, je trouve ça assez impressionnant. Et le comment m'a interpellé et je pense va pouvoir aider du monde. Mais avant de revenir sur comment t'as fait, je vais te laisser te présenter.
Yes.
La question fatidique. Qui es-tu, Mathilde?
Donc je suis créatrice de contenu sur LinkedIn, comme tu l'as dit, et Instagram un peu maintenant. Je parle de mes voyages seuls, je parle d'introspection, à l'époque même je parlais de ma vie étudiante. Et c'est globalement ce que je fais de mes journées. J'arrive à le monétiser un peu à côté en vendant du service comme on l'a fait ensemble sur des compétences que j'ai développées, donc LinkedIn, et aussi un peu de sponsor grâce à mes communautés. Voilà.
Trop bien. Et... Mais si on fait un point juste sur ton audience actuelle, parce que moi j'ai donné un chiffre qui est peut-être erroné ou vieux.
Non,
t'es sur quel, comme tu arrives à monétiser ça, t'es sur quelle présence sociale, si on fait une petite photographie de où tu es et combien, enfin ton audience, ça représente combien de personnes?
J'ai cumulé 100 000 personnes, dont ma majorité de mon audience qui est sur LinkedIn, donc 85 000. Ouais. Et sur Instagram, j'ai commencé il y a 3 mois. Et c'est allé plutôt vite, tu as 17 000 personnes. Ouais, j'ai bombardé sur Insta.
Et toi, en fait, partout où tu arrives, tu vas très très vite. Parce que je pense que 0 à 80 000 personnes en un an sur LinkedIn, je ne sais pas si ça a été fait, en tout cas en France. Hein.
Ouais, je me rends compte maintenant de... Parce que maintenant, ma croissance s'est ralentie, donc je suis à 85 000. Donc ça fait un an et demi. Ma croissance s'est ralentie, je me dis, mais la première année, c'était fou.
Oui, parce que tu as démarré il y a un an et demi.
Ouais, c'est ça.
Wow. Moi, j'y suis depuis 2012 sur LinkedIn, les gars. J'ai 15 000 personnes. Il va falloir que je comprenne un truc.
Mais je sais pas, j'ai bénéficié, je pense, je connaissais pas trop LinkedIn, donc j'y suis allée un peu avec ma naïveté. J'ai pas cherché à... Je savais pas qu'on pouvait développer une audience comme ça, en fait. Donc j'y suis allée un peu sans me poser de questions, sans me prendre la tête.
Ouais.
Et voilà. Sinon, niveau audience, donc j'ai une newsletter qui s'appelle Le Carnet de Mathilde, où là j'ai à peu près 1500 personnes. Je l'ai relancée cet été. C'est globalement mon journal intime, un jour par semaine, chaque mardi, ouais. J'envoie un peu mes sujets du moment, ce que je suis en train de faire, une réflexion. Et je développe un nouveau réseau social qui est Threads. Je sais même pas si on prononce comme ça.
Si, si, je crois que c'est ça. Ouais. J'y suis pas dessus.
Mais... Et ben bah, là, je... En fait, j'ai fait LinkedIn, Insta. Je commence à me... Bon, ça, on pourra en revenir un peu, mais je commence un peu à me lasser des deux. Donc là, j'essaie un peu de développer Threads. Bon, après, c'est le début, donc c'est un peu pour le fun. Et je suis à 5000, un peu plus de 5000 okay. personnes là-bas.
Et 1500 dans ta newsletter.
Ouais.
Ok. Ok, déjà ce qui est intéressant, et ça j'aime bien à chaque fois le noter avec les invités, c'est que tu les as fait globalement un par un. Tu as fait LinkedIn, ouais. là, Insta, etc. C'est super dur de aller vite, mais tout faire en même temps, ouais. c'est super dur. Et ok, merci pour la photographie de ton audience, c'est super intéressant. Et en tout cas, je constate que ce soit sur LinkedIn ou Insta, tu vas quand même très vite à chaque fois. Et juste à noter que 85 000 personnes sur LinkedIn... C'est genre pas du tout 85 000 sur TikTok ou Insta, c'est monstrueux quoi, c'est vraiment impressionnant. Enfin, un abonné LinkedIn est plus dur à avoir en principe.
Bah tu sais, que sur Insta les autres. Ça dépend.
C'est vrai, c'est dur aussi.
Non, je vais pas dire que c'est dur, mais enfin j'en vois pas du tout le même contenu sur Insta, mais ça me prend peut-être autant de temps, je crois, que LinkedIn. Et je pense qu'il y a des personnes qui galèrent sur Insta alors qu'ils sont forts sur LinkedIn, tu vois, parce que c'est pas du tout les mêmes codes. En fait, je sais pas s'il y a un truc qui est plus simple. Peut-être TikTok, c'est un peu plus simple. Mais tout dépend, en fait, de ta capacité pour le commun des mortels, je vais dire. Mais pour toutes les personnes, je pense que c'est plus dur. On peut croire que c'est plus dur sur LinkedIn parce que les personnes le font moins. Parce que ça fait plus peur, peut-être, de venir sur LinkedIn parce qu'on sait pas trop qu'on peut développer une audience là-bas encore, je crois.
Peut-être. Puis il y a aussi un plafond structurel. Enfin, ouais, je crois que le plus gros LinkedIn, le plus gros compte français, il a 400 000 personnes, je crois.
Oui, c'est vrai. Très
et donc, je pense qu'il y a quand même aussi structurellement un truc structurel qui fait que je sais pas, tu peux pas sur Insta, t'en as quand même un million d'abonnés, t'en as pas sur LinkedIn, en tout cas pas en France, quoi.
Mais c'est pas la même chose. Par exemple, sur Insta, t'as 80 000 abonnés, ok, bon, tu fais partie des petits encore. Que sur LinkedIn, t'as quand même plus d'impact en ayant 80 000 abonnés que. Je suis plus fière de mes abonnés sur LinkedIn que sur Insta, ça c'est sûr.
Mais bon, sur Insta, c'est que le début, je pense.
Ouais, je pense. J'essaye.
Non, mais trop cool. Avant de revenir sur le... Merci pour ce petit point, pour voir où t'en es. Et ceux qui te découvrent, celles et ceux qui te découvrent, ils vont pouvoir aussi aller regarder. Avant de poser la question du comment, je voulais juste te poser la question du pourquoi. Parce que t'as dit au début, tu parlais de tes études et tout. Donc en gros, t'es étudiante. C'est il n'y a pas si longtemps, t'as dit que tu t'es lancée il y a un an et demi. En fait, pourquoi tu as choisi de te lancer et de prendre cette voie plutôt que de... Enfin, je crois que tu faisais des longues études plutôt que de prendre la voie du CDI. Et en fait, LinkedIn, c'est pour trouver un job, quoi.
À la base, moi, j'étais dans la voie du CDI. Ouais. Full. Et l'histoire de LinkedIn... Souvent aussi, on me demande pourquoi LinkedIn. Parce que je rappelle, je parle de voyage seul et d'introspection. Donc a priori, quand tu as 22 ans, on t'attend plus sur Insta que sur LinkedIn. L'histoire, c'est que je suis partie voyager pendant 6 mois et au moment de rentrer en France, je rentre à Paris, j'ai un stage à la BNP dans les bureaux, à Levallois, et je me dis, ouais, j'ai vécu un truc de fou pendant 6 mois où vraiment ça a complètement changé ma vision de ma vie. Je me dis là, faut que je tourne pendant 6 mois en stage. J'étais super contente de mon stage, c'était exactement ce que je voulais, un bon salaire, enfin... C'était valorisant, quoi. Mais je me suis dit, je pense qu'il va me falloir plus parce que là, je viens de vivre 6 mois qui sont incroyables et j'ai envie de raconter aux gens, en fait. Parce que moi, avant, je savais pas qu'on pouvait vivre tout ça. Je savais pas qu'on pouvait... j'étais partie voyager seule parce que j'avais de l'anxiété et en fait, j'avais réussi à combattre de cette façon. Et je me suis dit, mais s'il y a des personnes qui sont dans la même situation que moi il y a 6 mois, bah, j'ai envie de pouvoir les aider, etc. Et j'aimais bien écrire ça depuis très longtemps. Et LinkedIn, c'était le seul réseau où, à l'époque, c'était pas obligatoire, enfin, c'est toujours pas obligatoire, mais de mettre une photo ou de la vidéo. C'était le seul réseau qui valorisait l'écrit par rapport à la photo. Et moi, j'étais plus à l'aise avec l'écrit que la photo. Donc, le premier jour de mon stage, je m'en rappelle très bien, je suis allée au bureau, enfin, dans le métro, j'ai envoyé mon premier post en disant coucou, j'arrive. Et pendant un mois, tous les jours, avant d'aller au bureau, j'envoyais un post. Un post tous par jour pendant un mois, ouais. Et c'est comme ça que ça a commencé, quoi.
Et sans au début, sans photo. Genre, c'était texte.
Non, je dis ça, mais il y avait des photos. Je pense que ça a aussi un peu fait la différence parce que j'envoyais des photos de voyage. Je pense que dans ton feed LinkedIn, c'est pas hyper courant. Et, mais c'était pas comme maintenant où là, quasiment tous mes posts sont avec photo.
Ouais.
Alors qu'avant, pas du tout. C'était, je mettais une photo quand j'avais envie de mettre une photo, mais c'était pas aussi intuitif que maintenant, quoi.
Ok, donc t'as démarré en parallèle d'un stage à la BNP pour partager tes découvertes, pour potentiellement aider des gens qui n'ont pas fait ces découvertes-là, mm-hmm. qui se lancent et qui sont anxieux, peut-être. Ok, et après, ça s'est plutôt bien passé.
Ouais. Et aussi, je voulais m'aider moi, enfin, entre guillemets, j'étais déjà dans l'objectif, je savais que je voulais... être entrepreneur dans un futur, mais je savais pas quoi, je savais pas, comme plein de gens en fait, t'as pas de projet en tête. Et je me suis dit, bah en fait, là j'ai un an, il me restait encore un peu plus d'un an avant la fin de mes études. Et je me suis dit, bah en fait, si pendant un an je publie sur LinkedIn, bah dans un an quand j'aurai fini mes études, ce sera cool, je saurai comment. Je m'attendais pas du tout à ce que ce soit une croissance comme ça. Je me suis dit, ah, au moins dans un an, je saurai me servir de LinkedIn et saurai faire. Enfin, j'aurais déjà un pas d'avance avec les personnes qui sortent d'études et qui veulent monter des projets. J'aurais un petit pas d'avance, mais je ne m'attendais pas du tout à ça. Et au bout de 3 mois de mon stage, c'était un stage de 6 mois.
Ouais.
Je dis non, en fait, ce n'est pas possible. Genre, je ne peux pas aller au bureau tous les matins alors que ça ne me plaît pas du tout. Enfin, okay, ce que je fais, ça, ouais. Je ne voyais pas du tout d'intérêt dans ce que je faisais. Et pourtant, j'avais un cadre super. Enfin, j'avais un peu je ne voulais pas partir parce que je me disais, c'est un peu le stage que j'avais rêvé depuis toujours. J'étais bien payée. Je me suis dit, si je pars, c'est quand même... Enfin, ça fait un peu petite fille capricieuse. Mais non, je me suis dit, OK, c'est le moment de tenter. Donc, au bout de 3 mois, donc, j'avais commencé LinkedIn. J'avais fait 10 000 abonnés en 3 mois. Et je me suis dit, je pars, je quitte. Et là, j'ai monté mon auto-entreprise et j'ai commencé à faire des masterclass, commencer un peu à faire du service et même juste du call LinkedIn. Donc, au bout de 3 mois, quoi.
Ok, au bout de 3 mois, ouais. Tu quittes ton stage. Tu dis, j'y vais parce que ça marche. Enfin, j'ai 10 000 abonnés en 3 mois, donc c'est que ça marche bien. Et là, ouais, tu dois, enfin, pour te rémunérer, etc., tu fais quoi au début?
Alors, j'ai vendu la première chose que j'ai vendue, la première fois que j'ai fait de l'argent par moi-même, c'est une masterclass. Donc, j'ai vendu le ticket 45 euros, une heure de masterclass, c'est 30 minutes de questions-réponses, je crois.
Ouais.
Et j'étais juste en mode, waouh, j'avais tellement peur. Mais c'était ça, donc à 22 ans, je fais une masterclass, les gens avaient deux fois mon âge. C'était sur quoi ? C'était sur LinkedIn, en fait. Enfin, comment faire de la visibilité sur LinkedIn.
Ok.
Donc c'est quelque chose que je maîtrisais un peu, mais c'était mes débuts. Et après, j'ai vendu du call à l'heure. J'avais mon calendrier ouvert. Mais c'était juste une histoire de 3 mois, entre guillemets, 3 mois où je devais me re-rémunérer, surtout que j'habitais à Paris. Et après, j'enchaînais sur mon Master 2, quoi. J'avais pas fini les études.
Et après, t'as
j'avais
repris,
juste, quitté mon stage.
Attends, mais là, en fait, il y a quand même... Bon, j'ai une question après sur les peurs, parce que là, il y a un truc... Mais moi, je suis quand même un peu impressionné parce que c'est genre, déjà, je trouve que c'est assez pétrifiant de se dire, je vais faire une masterclass payante, t'as peur qu'il n'y ait personne, t'as peur d'être nul, j'en sais rien. Et en plus, tu faisais des calls d'une heure où, enfin, moi, je trouve que ça fait flipper parce que, et je me dis, mais moi, en tant qu'étudiant, mais j'aurais eu le syndrome de l'imposteur, mais fois 12 000, quoi. Enfin, les premières personnes qui sont arrivées, qui ont payé, et t'étais stressée ou c'était ok?
Ouais, j'étais stressée. J'avais fait juste pendant... La seule chose que j'avais fait avant, c'était 10 calls gratuits pour des étudiants.
Ok.
Pour me faire la main. Au début, je pensais faire un service pour les étudiants parce que j'étais étudiante. Ouais. Après, je me suis dit non, ça m'intéressait pas vraiment parce que les étudiants, ils cherchaient un stage. Enfin, et du coup, moi, c'était pas du tout là-dedans que j'avais des compétences, quoi. J'allais pas t'apprendre à chercher un stage sur LinkedIn. C'était pas du tout ce que je savais faire et ce que j'avais envie d'apprendre aussi. Moi, je voulais t'apprendre à faire de bons posts, à bien écrire, à faire de la visibilité.
Ouais.
Et en ça, j'avais pas trop un problème de légitimité. Je crois pas parce que je savais quand même que j'avais des compétences que la plupart n'avaient pas. Donc, je me suis dit, OK, pour 45 euros, t'en as pour ton argent parce que je vais te délivrer de la valeur et c'est pas... Enfin, il n'y avait pas ça sur LinkedIn à 45 euros. T'avais pas...
Oui, c'est sûr que
t'avais, les... T'avais pas ça. Donc je me suis dit, c'est aussi un bon moyen de me faire la main, d'avoir du retour client et tout. Et aussi, en vrai, des fois, je fais des choses sans trop réfléchir, quoi. Je me dis, OK, il faut que je fasse de l'argent, il faut que je me teste sur un nouveau truc. J'avais annoncé ma masterclass, vendu ma masterclass, j'avais pas créé encore la masterclass, j'avais pas créé le PowerPoint et tout. Ouais. Je savais pas encore comment j'allais organiser ça, mais je me suis dit, une fois que je m'engage, je vais devoir le faire, je vais devoir assumer. C'est comme tous les trucs, par exemple, quand je fais une conférence, j'accepte et, avant, et 3 jours avant, je suis en mode « Ah, qu'est-ce que j'ai fait ?» Mais c'est comme ça qu'on avance. Donc, je sais pas, je crois que sur les réseaux, c'est... ce qui est cool, c'est que, par exemple, dans mon stage, des fois, je me sentais un peu inférieure parce qu'il y a des choses que je comprenais moins parce que c'était des trucs techniques, etc. Là, sur LinkedIn, je savais que j'avais plus de compétences, enfin, que j'avais des compétences que je pouvais aider des personnes. Donc, j'avais pas ce problème de légitimité.
Ok. Ok, et quand ouais, parce que il y a le truc d'avoir des compétences et il y a le truc de est-ce que je vais délivrer assez de valeur dans une heure, parce que en une heure tu fais pas non plus, enfin tu fais pas non plus du taf pour la personne, tu lui transfères des connaissances, enfin il y a toujours, enfin tu vois, c'est ça aussi, tu vois, est-ce que je vais réussir au-delà de moi d'avoir des compétences à transmettre suffisamment de valeur, et ça c'est chaud, quoi. Ouais, faut envoyer. Ok mais non, mais trop cool. Donc ça, c'est comment tu t'es lancé. Et ouais, moi j'avais la question du coup plus globale, au-delà des chiffres, donc t'as une super audience, t'en vis aujourd'hui du coup, enfin...
Ouais, j'ai fini les études donc en octobre dernier, donc pendant un an j'étais en master et en même temps j'avais mon auto-entreprise.
Ouais.
Donc je faisais, j'ai continué, après j'ai vendu un peu, j'ai fait différents trucs en service, j'ai vendu de la formation pour des entreprises, j'ai vendu du script de formation, et aussi du service de correction de poste, et aussi de l'accompagnement, mais j'ai toujours essayé de tester différentes choses, de voir sur quoi j'étais la meilleure, sur quoi, qu'est-ce qui aussi me correspondait le mieux, et donc ça m'a permis aussi d'économiser pendant que j'étais étudiante, ce qui est quand même précieux. J'étais très chanceuse, enfin très chanceuse, et à la fois...
Bah, tu t'es bougé les fesses quand même.
Ouais, je me suis bougé le cul, je travaillais pas comme une acharnée, j'étais en master entrepreneuriat, donc ça va, c'était pas non plus incroyable, mais j'allais pas en soirée, le soir quand je rentrais, je bossais, même en cours, je bossais pour mes projets, etc. J'avais déjà une vision de long terme pour moi. Mon année d'école, elle s'est un peu arrêtée, enfin mes études sont un peu arrêtées quand j'ai commencé LinkedIn, j'ai vu que ça marchait bien. Je me suis dit, bah je sais que ça... c'est plus de valeur que mon diplôme. Mmh, mon diplôme que audience, j'ai payé 36 000 euros. Je précise.
T'inquiète, j'ai payé pareil il y a quelques années.
Enfin, je ne suis pas encore diplômée, donc voilà, ça va arriver. Mais voilà. Donc je me suis dit, ça a plus de valeur, donc il faut que je développe ça.
Ouais.
Et l'école, c'est un side. Genre, par exemple, quand j'ai eu mes notes pour dire que j'étais validée, je suis en mode, ah ok.
Mais t'es allée au bout quand même.
Ouais. Ouais, parce que quand t'as fait. J'ai fait 6 ans d'études, du coup, avec ma prépa. Ouais. T'as pas envie d'arrêter la dernière année, quoi.
Je suis d'accord.
Puis même, je trouve que c'est important d'avoir le choix. Je me dis maintenant, je fais ça parce que j'ai le choix. Mmh. Et je me dis pas, ah, qu'est-ce que ça aurait été ma vie si... Non, j'ai le choix de ne pas aller dans un job à Paris. Donc je fais ça. Et donc, pour répondre à ta question, est-ce que j'en vis ? Oui, je vis du service et du sponsoring. Mais je suis toujours en train de tester le business qui me correspond le mieux. J'ai pas encore trouvé le format hyper précis qui me correspond, et aussi je suis quand même jeune entrepreneur entre guillemets, donc je me suis pas encore pris beaucoup de portes, mais je sens que ça va arriver. Donc je me dis, là j'ai envie de tester, mes capacités entrepreneuriales, parce qu'en fait quand t'es étudiant et tu entreprends, j'étais un peu dans un cocon où tu fais de l'argent et c'est cool, mais du coup je me sentais valorisée, ah je fais des gros mois, trop bien et tout. Parce que maintenant, c'est mon job et c'est totalement différent. Mmh. Avant, je me contentais de l'argent que j'avais quand j'étais étudiante, parce que c'était quand t'es étudiante d'avoir ça. Maintenant, non, je fais pas autant d'argent que... C'est pas mes ambitions, je suis pas encore à la hauteur de mes ambitions, quoi. Mais ça va arriver, je me laisse du temps, c'est pas mes priorités pour le moment.
Ok, et par rapport aux ambitions, ça c'est un truc que t'es ok de partager. Enfin, là aujourd'hui, donc t'as 24 ans,
ouais,
c'est ça. Ouais, t'es même pas encore diplômé, enfin t'as fini tes études, le diplôme va arriver, j'imagine, une cérémonie bientôt, ils font souvent un peu en décalé. D'ailleurs, c'est le hack. D'ailleurs, c'est un hack des écoles, j'ai compris pourquoi ils faisaient les cérémonies en décalé.
Dis-moi.
C'est pour que officiellement ils disent, on a, tant d'étudiants embauchés qui sont déjà en CDI au diplôme.
Mais non.
En fait, les écoles, elles repoussent au max la cérémonie
de
diplôme.
C'est pour ça que le taux de...
Bah ouais, dans les classements, en fait, le taux d'embauche à la sortie, il faut qu'il soit bon. Et plus tu repousses, plus tu as un bon taux d'embauche à la sortie.
C'est vrai, je ne savais pas. Okay. Enfin, parce que c'est en juin, je crois, donc c'est super loin.
Mais bon, mon école avait fait ça aussi. J'étais diplômé limite l'année d'après. Et ouais, je digresse carrément. Mais là, du coup, tu as 24 ans, donc tu as fait de l'argent en tant qu'étudiante. Tu testes plein de formats, plein de services. Et d'ailleurs, il y a un truc super cool que tu fais, je trouve, et qui est important, c'est souvent ce qu'on appelle le reverse marketing ou stratégie inversée, c'est tu vends quelque chose avant de le créer, quoi. Genre, tu vends une masterclass,
s'il y a de la vente,
tu vas la créer. Mm-hmm. Et je pense que c'est une bonne manière aussi de faire et c'est de tester. Et c'est surtout une bonne manière quand tu as une audience, en fait. C'est, bah, ok, je poste, je vois, puisque j'ai une audience, si ça répond, j'y vais. Et du coup, ouais, mais aujourd'hui, tu as déjà une super audience. Donc, tu es quand même assis sur un tas d'or, tu l'as dit. Enfin, ça vaut beaucoup plus qu'un diplôme d'avoir une audience de 100 000 personnes. Tu sais que si, quoi que tu lances, tu as des gens qui vont le voir. Et du coup, bah, je me posais la question, tu as ça, tu peux capitaliser là-dessus. Ouais, c'est quoi ton ambition à long terme, du coup?
L'ambition de CA?
Ou l'ambition générale.
Ça
peut être du CA ou du... Enfin ouais, c'est quoi ton ambition? Parce que t'es déjà arrivé à un stade que beaucoup veulent, c'est-à-dire de j'ai l'ambition de créer une super audience pour pouvoir justement avoir cette liberté de tester des projets et de voir s'ils marchent, parce que quand t'as 100 000 personnes, bah si ça marche bien, t'as beaucoup de répondants, ça marche pas, tu le vois tout de suite,
ouais,
tu vois.
Tu sais que des fois je me dis, c'est peut-être un... Enfin c'est pas un piège, mais... des fois je me dis, j'ai peur de me casser la gueule en public, tu vois.
Ah ouais, ok.
Je me dis, ah maintenant, du coup, enfin... Je sais pas, c'est comme si c'était plus compliqué l'échec, mais ça c'est entre moi et moi. Je pense que en fait il y en a plein qui ont des super audiences, ils font un produit, ça se vend pas, personne le sait. En fait il y a qu'eux qui le savent. Tu sais pas quand un produit se vend, un service se vend ou pas.
C'est vrai.
Mais moi j'ai ce truc de bah non, en fait j'ai une grosse audience, je peux pas me planter publiquement. C'est un truc à déconstruire parce que comme je l'ai dit, surtout que en fait quand tu vois ce que j'ai vu ces derniers mois, ce qui est trop intéressant, j'ai passé beaucoup de temps avec des entrepreneurs. Tu vois que même les meilleurs entrepreneurs, ils ont des problèmes d'argent, ils se plantent sur des trucs, il y a des trucs qui ne marchent pas. Et c'est ce que j'essaye d'apprendre. Je me dis, mais en fait, il faut que je fasse le plus d'erreurs possible pour avoir une version finale qui est la meilleure, en fait, pour moi. Quelle est mon ambition? Je n'ai pas d'ambition de CA. Ça n'a pas été beaucoup ma priorité, l'argent, ces derniers temps. Je gagnais assez pour vivre et voilà, je ne me prenais pas la tête et pour voyager. Mais je mettais pas énormément de côté, enfin j'ai pas je vivais pas non plus de façon délurée, mais là du coup je suis en train de me dire que en 2024 l'une des prios du coup sera un peu développer le business, qui était pas avant. Je faisais du business mais comme ça, enfin en mode ok c'est cool, j'aime bien, et je le faisais pas vraiment pour des ambitions. Je me disais, tiens, ce mois-ci je vais faire tant. Non, pas du tout. Donc là, je me dis, j'aimerais bien, parce que j'ai des projets qui... J'aimerais bien être plus ambitieuse dans mes projets, dans mon niveau de vie et tout. En ce cas-là, c'est normal.
Okay.
Mais en même temps, des fois, je me contredis. Parce que des fois, je me dis, ok, ça va être ma priorité, ça va être le business, etc. Et en même temps, j'ai d'autres projets perso qui arrivent. Par exemple, en avril, je vais potentiellement être indisponible pendant un mois. Partir un mois sans connexion, sans rien.
Le rêve.
Ouais. Mais sauf que je me dis... Mathilde, ta prio à la base c'était business. Mais en même temps, quand on me propose ça, c'est impossible que je dise non. Donc je crois que ma prio c'est quand même de faire des expériences de fou.
Ouais.
C'est pas non plus, je travaille pas 10 heures par jour du tout, et c'est pas mon ambition.
Tu travailles combien de temps par jour aujourd'hui?
Franchement, je sais pas, je saurais pas dire, parce que j'ai envie de dire tout le temps et jamais, tu vois.
Ouais.
Y a des moments où je suis sur mon ordi, je sais que c'est du travail, et en même temps j'ai pas la notion de week-end. J'ai peu la notion de santé, et je pense que c'est pas bien. De santé, de soirée, je voulais dire.
Ouais.
Si je crois que je suis le plus productive le matin et le soir, très tard. Donc, ce qui fait que souvent l'après-midi, je travaille pas beaucoup. Soit je fais des trucs créatifs, j'essaye de faire un peu de veille sur de la création de contenu, mais je travaille pas beaucoup l'après-midi parce que j'ai un niveau d'énergie qui est beaucoup plus bas. Donc, je travaille le matin et le soir, ce qui fait que, socialement parlant, c'est infernal. Mais bon, c'est pas grave. Et le week-end, pareil, pour moi, il n'y a pas de... Je fais pas de différence entre un lundi et un samedi. Ce que je pense qui n'est pas forcément bon. Moi, je constate qu'en fait, se donner, par exemple, des jours de repos ou des jours où tu dis tu fais rien, et que sinon, tous les matins, je me lève avec « faut que je fasse ça, 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 ça ouais. ». Et en fait, t'as en tête de... Alors qu'il y a des jours où tu dis « ok, j'ai rien à faire », bah tu les profites, enfin tu... Donc je pense pas que j'ai la meilleure façon de travailler du tout, je pense pas que je suis la plus productive du tout. Mais c'est sûr que je travaille pas 10 heures par jour, mais en même temps, bah quand je suis sur mon téléphone, sur Insta, en train de créer un Reels, bah je considère pas en même temps que ce soit du travail, mais en même temps ça l'est parce que ça contribue à ma stratégie globale. Quand je suis en train de mettre des posts un peu débiles sur Threads, bah je le considère pas comme du travail, mais en même temps c'est ma stratégie globale. Donc c'est un peu difficile de d'estimer ça.
Ouais. Et tout à l'heure tu disais bah ouais, c'est un peu un piège, j'ai une grosse audience parce que si je me casse la gueule, je me casse la gueule devant tout le monde. Je voudrais disparaître un mois pour déconnecter, et c'est une expérience de ouf. Et en même temps, ma priorité c'est le business. C'est quoi Enfin, j'ai une question sur tes peurs en fait, parce que tu as l'air quand même de pas avoir peur de grand chose. Quand tu dis, je me suis mis à poster un matin, je postais tous les jours, j'ai vendu des masterclass, j'ai pris des appels payants. C'est quoi tes peurs et c'est quoi le rapport que tu entretiens avec elles?
Mais tu sais, alors. Je sais pas, des fois j'ai l'impression que dans ma tête et ce que je transmets et ce qu'il y a dans ma tête, c'est pas du tout la même chose parce que j'ai l'impression d'être full of peur tout le temps. Même niveau business, souvent je me dis ah, j'ai trop peur que la personne elle se dise ah, du coup je suis pas assez bien, etc. C'est ma plus grande peur qu'un de mes clients me dise ah, ben en fait, ton travail c'est nul. Ça vraiment, je me dis non, c'est pas possible. Ça me fait peur. Mais c'est un gros sujet pour moi, les peurs. J'adore ce sujet. J'ai même un carnet des peurs où je fais écrire les gens dedans. Et pour moi, quand j'ai peur de quelque chose, ça veut dire que c'est important pour moi. Ça veut dire que derrière ça, derrière la peur, il y aura un sentiment de satisfaction. Et je sais pas, je me dis, il y a plein de choses que j'ai pas peur. Ça veut pas dire que je m'en fiche. Non, ça veut pas dire que je vais le faire. C'est juste, il y a des trucs que, enfin, j'ai pas peur d'avoir un CDI, mais je vais pas le faire parce que c'est pas ce que je veux, quoi. Mais il y a des trucs que j'ai peur. Par exemple, faire une conférence, j'ai peur, mais c'est parce que je veux le faire, tu vois. C'est parce que c'est important pour moi, parce que derrière, il y a quelque chose. Donc, les peurs, c'est un gros sujet. J'adore ce sujet.
Moi aussi. Enfin, ok. Et la peur, du coup, qu'on te dise que c'est pas assez bien, peur de faire une conférence, ça, je crois que tu l'as fait. Ouais, je suis assez persuadé aussi que les peurs, c'est quand t'as peur, c'est que t'es dans le vrai et que potentiellement aller affronter cette peur, enfin il y aura plus la peur est grande, plus il y a un cadeau qui est important derrière, quoi. Ça, je suis assez persuadé aussi. Et mais après, c'est pas évident de les dissoudre et de les affronter. Toi, du coup, par exemple, comment tu fais? Parce que ce truc là il y a quand même beaucoup de gens qui l'ont. Je sais pas si c'est ça le syndrome de l'imposteur, quoi. Peut-être, tu vois, j'ai peur que la personne me démasque et découvre que je suis nul ou me dise que je suis nul. Tu fais comment pour le... Tu surbosses, tu vois, moi par exemple, une de mes manières de prévenir cette peur-là, c'est de trop travailler, c'est de surinvestir. Je me dis au moins, non, là, si la personne dit que je suis nul, c'est vraiment... C'est que la personne, c'est impossible parce que j'ai sur délivré. Et je pense que c'est un truc qu'il faut que je lâche pour moins travailler, par exemple.
C'est vrai.
Avec certains clients, je travaille trop, par peur de ça, en fait.
Non, moi, c'est pas du tout... Justement, des fois, je travaille pas assez, pas dans le cadre pro, mais par exemple, pour une conférence, je vais pas la bosser, tu vois, alors que pourtant, j'ai peur. Je sais pas pourquoi j'ai pas un mécanisme qui agit comme ça. La peur, ça me fait pas plus bosser. Par exemple, dans le cadre pro... je me dis ah, je sais que j'ai des compétences dans ça, tu vois, et je vais pas par exemple je fais pas des posts je fais pas beaucoup de posts sur mes offres et tout, ce qui fait que je suis pas une très bonne je suis pas encore très très bonne en business parce que je parle quasiment jamais de mes offres sur LinkedIn, enfin je fais pas beaucoup de posts de vente parce que j'aime pas être pushy, parce que c'est pas moi. Donc tu vois, si tu veux bosser avec moi, faut déjà aller me chercher, tu vois, soit dans ma newsletter, soit dans mes liens, mais c'est pas moi qui vais dire hey, je vais te faire ça, grâce à moi, tu vas avoir 80 000 abonnés et tout. Non, pas du tout, tu vois. Donc, je vends pas... je fais pas un marketing très pushy, ce qui fait que je suis assez à l'aise avec ce que je délivre par rapport à ce que j'ai vendu.
Ouais.
Donc, pour ça, ça va. Après, c'est comment, tu sais, des fois, tu peux pas tout gérer, la satisfaction client. Je crois que... Des fois, par exemple, j'ai un exemple d'un sponsor avec qui... enfin c'est pas que ça s'était pas bien passé, mais du coup les résultats c'était pas, enfin moi mes résultats de poste c'est très bien passé, mais en conversion. Et sauf que bout d'un moment, bah je peux pas, enfin faut que je me détache de ça, parce que moi ça m'avait pris pendant une journée, je pensais à ça, oui du coup bah la marque elle pense à, en même temps bah moi j'ai fait mes objectifs, j'ai fait ce que j'ai vendu, et je peux pas faire de la conversion si c'est pas mon job en fait.
Oui, c'est pas ton truc.
Donc, mais des fois, les gens, ils te reprochent des trucs alors que ça, c'est le but de la vie. C'est ce que j'essaye beaucoup de faire. Je suis une personne assez sensible. Donc, par exemple, tu vas me dire un truc, je vais y penser toute la journée, quoi. Donc ça, j'essaye de me détacher de ça, parce que niveau business, c'est assez compliqué. Parce que du coup, tu vas rester accroché à un truc alors qu'en fait, c'est juste qu'il n'y a pas de vérité, tu vois. Chacun a sa vérité et voilà, il faut juste passer à autre chose, quoi.
Ouais, et t'as d'autres, ça c'était des peurs pro, t'as d'autres peurs dans le perso que t'affrontes ou que t'arrives à...
Ouais, je crois que j'ai assez peur de... Bah, du jugement des autres, ça oui.
Ouais.
Je suis toujours un peu, ce qu'on a parlé, ça, du coup ça fait sur du pro. J'ai assez peur de quoi ? Alors j'ai une peur, je sais pas pourquoi je dis ça à chaque fois, faut que j'arrête de le dire. J'ai une peur très terre à terre, c'est que j'ai peur des grenouilles, voilà. Donc je me dis, je préfère faire une conférence devant 1000 personnes, et c'est pas une blague. Et j'ai vraiment peur que de voir une grenouille juste devant moi. Et ça, je me dis, mais c'est fou, parce que autant toutes mes peurs, je me dis, il y a quelque chose à aller chercher derrière. Là, il n'y a rien à aller chercher derrière.
Mais peut-être, c'est juste que c'est très caché. Mais...
Ouais, bah, mais autant, tu vois, sur toutes mes autres peurs, je me dis, ah, j'ai envie d'y aller et tout. La peur des grenouilles, j'ai pas du tout envie d'y aller. J'ai pas c'est du tout envie marrant. De l'affronter. Mais il faut un jour, je vais pas rester comme ça.
Il faut un jour la prendre, cette grenouille.
Ah non, tu vois, rien que le mot, mais je commence à
Ah, mais je comprends. Là, c'est un peu une phobie. Moi par exemple, c'est très classique, mais moi, les araignées à longues pattes, enfin, celles vraiment qui ont des longues pattes, des petites araignées, je m'en fous. Mais en fait, elles ont une manière de bouger qui me... C'est une phobie, c'est pas rationnel. Pourtant, je sais que c'est...
Il y a tellement de gens qui ont la phobie des araignées.
Ben, c'est l'aspect. Et je sais que c'est pas dangereux, qu'elles sont pas dangereuses, qu'elles sont plutôt sympas. En plus, une araignée, ça nettoie plein de trucs, c'est un rôle important. Mais malgré tous ces trucs de rationalité, j'ai pas du tout envie de les tuer, etc. Mais je comprends pas. Je préfère faire une conférence devant 1000 personnes que d'avoir une énorme araignée là qui va potentiellement venir sur moi. Mais 1000 fois, vraiment, tu vois.
C'est tellement irrationnel.
Je comprends ta peur de la grenouille, même si moi j'adore les grenouilles, mais je comprends le truc, tu vois. Mais c'est vrai que celle-là, je sais pas s'il y a grand-chose à aller chercher derrière. Ça doit être un trauma d'enfance, tu vois, un truc qui a rien à voir.
C'est exactement ça. Je pense que c'est un bon trauma d'enfance, parce que vu que c'est pas rationnel, il doit y avoir un truc. Il y en a une
un jour, que... j'en sais. Ouais, c'est bizarre, quoi. Ok. Je voudrais revenir sur le. Enfin, refaire un petit point sur le fait que t'as quand même. On en a un peu parlé en filigrane, on en a parlé au début. T'es passé de 0 à 80 000 abonnés en un an sur LinkedIn, qui est un réseau professionnel, avec la ligne éditoriale. Je me la suis renotée ici, c'est « J'explore, j'improvise et je vous raconte ». Et tu parles notamment de tes voyages seuls. En fait, tu voyages beaucoup seul. Ça, d'ailleurs, du coup, j'imagine que tu as dû affronter quelques peurs.
Ouais.
Et en fait, tu pars de ça. Tu pars de tes aventures seules, de tes découvertes. Et en fait, moi, je trouve super intéressant que tu aies pris cette posture d'exploratrice, parce que si on fait un petit topo pour les auditrices auditeurs qui nous écoutent, quand tu te lances sur LinkedIn, t'as deux choix, t'as deux postures je pense, alors peut-être que je fais une erreur, mais pour moi, quand tu te lances sur LinkedIn, t'as deux postures parmi lesquelles choisir: l'explorateur et l'expert. Et en fait, le syndrome de l'imposteur pousse quasiment tout le monde à aller prendre la posture de l'expert. Parce que c'est plus confortable, c'est professionnel, je dois dire une expertise. Et tu vois, moi j'accompagne des entrepreneurs ou des dirigeants qui me disent moi je veux faire du contenu expert, ça fait 10 ans que j'ai de l'expertise là-dessus, je veux en parler et je veux surtout pas parler de moi ou me mettre en avant, ça va intéresser personne, j'ai peur qu'on se moque de moi, j'ai peur d'être démasqué, etc. Et à mon avis, c'est un piège. Et à mon avis, tes chiffres d'ailleurs prouvent le contraire, puisque tu pourrais pas avoir trouvé un écho sur un stade de France, tu pourrais pas remplir un stade de France s'il y a pas un truc intéressant qui fait un écho chez les gens, tu vois. Et voilà, moi ma question, c'est en fait, c'est quoi ton secret pour avoir cette posture et arriver à trouver un écho chez autant de monde, en fait? Est-ce que t'as déconstruit ça, tu vois?
Non, pas du tout. Alors, il y a plusieurs sujets. Déjà, je suis arrivée, donc j'étais stagiaire étudiante. Et au début même, je pensais, en allant sur LinkedIn, donc parler un peu de mes voyages solo, mais je pensais parler d'écologie, parce que c'était mon domaine avant. Je me suis dit, ouais, je vais parler de ça, etc. Et en fait, c'est quand j'ai commencé à parler de mes aventures solo, là, ça a marché, etc. Et je me suis rendu compte que j'avais pas forcément envie de parler d'écologie. Puis surtout, c'était hyper compliqué parce que l'écologie, en fait, tu dis un truc, c'est démenti par un autre. Et toujours le moins écologie, enfin, ça, c'est un autre sujet, mais toujours le moins écolo qu'un autre. Et du coup, voilà.
Ouais.
Bref. Et c'est marrant cette headline, j'explore, j'improvise et je vous raconte. Ça fait plus d'un an que je l'ai. Et pour la trouver, parce que ma ligne édito, du coup, c'était pas une moi. Et je me suis dit, mais. C'est facile quand t'as un job, tu mets ça dans ta headline, mais moi je
Ouais.
sais, mais qu'est-ce que je mets comme headline? Qu'est-ce que je raconte? Je ne sais pas, tu vois. J'ai mis j'explore, faudrait peut-être que je la change un jour, mais je l'ai trouvé dans un bar en ayant peut-être 3 verres d'alcool. Voilà mon secret.
C'est ça le secret de Mathilde. Mais non, mais
Ouais.
peut-être que ce qui est intéressant, c'est que toi, tu n'avais pas le choix parce que tu n'avais pas encore beaucoup d'expérience pro. Tu en avais peut-être quelques-unes, mais
Ouais.
tous ceux qui ont 10-15 ans, ils se disent, mais non, mais en fait, c'est sûr, il faut que je parle de pro. Toi, tu avais quelque part peut-être cette ouverture que d'autres n'ont pas. Et du coup, tu es parti de là-dessus, quoi.
Mais surtout, des fois, je vois des gens, c'est arrivé à des gens qui se lancent sur LinkedIn, que j'ai aidé à se lancer, ou même je vois des gens qui se lancent et qui font des posts comment ça marche LinkedIn, comment marcher sur LinkedIn, etc. Dans les premiers posts, en mode expert. Je me dis, ah oui,
Ouais.
le syndrome de l'imposteur,
Ouais,
ça ne les
c'est pas
touche
du
pas.
tout, pas du tout pour
Ouais, et je
toi.
me dis, mais waouh! Et du coup, justement, moi, c'était un peu ça, tu vois, je veux pas parler d'un truc que je connais pas, je veux pas dire une vérité générale, par exemple, j'avais pas parlé de développement perso, mais vous devriez faire ça, tu sais, il y en a plein qui ont fait ça, tu vois, vous devriez faire ça, si vous êtes pas ça, vous faites ça.
C'est
Je suis en mode, mais
super, ouais.
pas du tout, tu vois, surtout, oui, voilà, et en plus, quand t'as 22 ans, moi, j'étais pas du tout confiante en moi. Enfin, j'avais peu de confiance en moi et du coup, à aucun moment j'allais sur LinkedIn et apprendre aux gens à être quoi.
Ouais.
Et j'étais juste assez naïvement aussi quoi. Bah tiens, j'ai fait ça et voilà. Et du coup, je pensais pas du tout que ça puisse parler à autant de monde parce que je parlais aussi autre sujet. Quasiment tous mes posts commencent par je. Quasiment. Il y en a qui m'ont dit oui, du coup, enfin, c'est un peu assez égocentrique. De commencer par jeu tout le temps. Et je me dis, mais moi je parle d'un truc que je connais. Enfin, c'est assez présomptueux. On me dit de comment. Moi je parle d'un truc que je connais, alors que d'autres parlent d'un truc qu'ils ne connaissent pas, en disant une vérité générale, en disant que ça c'est la vérité. Je me dis, ah oui, d'accord. Je pense
Et
que niveau.
en donnant des leçons, ouais, c'est bon, t'as encore
Ouais.
de l'eau. Je viens de
Ouais.
terminer la bouteille, j'ai tout pris pour moi, quoi.
Non, t'inquiète.
Désolé.
Et ouais, et en donnant des leçons, je me dis, mais. Enfin, je sais pas, bon, bref. Et du coup, oui, ça m'est pas. Je me suis pas dit en commençant LinkedIn, je vais faire ça. J'avais pas de stratégie, j'avais pas de. C'est assez intuitif. C'est pareil sur tous les réseaux, j'ai jamais eu de stratégie, jamais eu de ligne édito. Si j'ai envie de parler de quelque chose, je le fais, tu vois.
Ok.
Je vais jamais m'interdire de parler d'un truc parce que c'est pas dans mes sujets. Mes sujets de prédilection sont arrivés un peu sur le tas et c'est parce que c'est ce qui a le plus plu aux gens. Et c'est ce pourquoi on me reconnaît. Par exemple, le voyage solo.
Ouais.
Je pense que la plupart des gens qui me lisent me connaissent pour ça.
Oui.
Alors que j'étais étudiante à l'époque, tu vois, quand je publiais sur LinkedIn. Donc, je parlais pas non plus tant de voyages que solo que ça, quoi. Enfin, j'ai commencé par ça. Mais si tu fais un ratio de mes posts, je pense, je sais pas, il devrait y avoir 20% sur le voyage solo. Mais sinon, il y a
Ouais.
plein d'autres sujets.
C'est sur
Mais.
quelle autre thématique, ouais, d'ailleurs?
Bah, tu sais, je saurais pas te dire
Ok.
si je vis un truc, je fais un truc. Par exemple, j'ai passé une semaine dans un château avec des entrepreneurs. Bah, j'ai fait un post sur ça. Je sais pas, j'ai beaucoup parlé de mes réflexions quand j'étais étudiante. Je parlais pas beaucoup d'études, mais je parlais de mes réflexions. Sur la vie, quoi. Mais j'ai pas de. Bah, vu que j'ai pas d'inédito, c'est juste qu'il m'arrive des trucs, j'apprends des choses, je me dis est-ce que ça peut être intéressant. Je développe un sujet, des fois aussi. Un post LinkedIn, ça me permet de développer une idée pour moi-même, tu vois. Donc ouais, et j'ai pas. Beaucoup de gens disent oui, il faut écrire pour le lecteur, etc. Et ce que je dis des fois aussi maintenant,
Ouais.
mais c'est pas du tout ce que j'ai fait moi, tu vois, la première année. La première année, j'ai écrit pour moi. Enfin, assez. J'ai écrit parce que je voulais partager et éveiller d'autres un peu des consciences. Mais j'ai quand même écrit pour moi, tu vois. C'est le fait que tu vois ton niveau d'abonnés, etc. T'es en mode, ah cool, faut que j'écrive. Donc c'était quand même assez pour moi. Et même mes posts parlaient de moi et parlaient de mes sujets, quoi. Mais là, j'essaye d'un peu plus élargir. Aussi, j'ai moins envie de créer autant. C'est plus. je fais moins de posts. C'est quand j'ai vraiment quelque chose à dire. Sur LinkedIn, c'est quand j'ai quelque chose à dire, je vais prendre le temps de faire un post. Mais voilà, j'ai pas même. J'ai plus de. Si je, vais pas... si je poste pas pendant. Là, je crois que ça fait 2-3 semaines que j'ai pas posté. Parce que s'il m'arrive rien. Si... Tu vois, je. Digression. Mais ouais, qui est dans le sujet. Tu disais, les experts, ils veulent partager de leur expertise, mais pas d'eux. Alors, des fois, c'est parce qu'ils ont peur aussi que, tu sais, les personnes se moquent. Même des fois, c'est aussi un côté générationnel, tu vois. On n'est pas habitué à parler de nous sur les réseaux sociaux. Enfin, ma génération, oui, mais... Exactement. Mais il y a aussi le fait, j'ai des amis qui sont comme ça, qui ont créé, qui font de la création de contenu, mais sur leur expertise et pas sur eux. Et je pense que niveau santé mentale, je pense que c'est mieux pour eux parce que, tu vois, par exemple, si... t'as un mois, t'es un peu moins bien. Moi, je suis, par exemple, je suis un peu moins bien, etc. Bah, je vais pas vouloir faire de post, tu vois. Je vais pas faire des posts pour dire « Hello, je suis un peu moins bien », tu vois. Alors que ceux qui ont une expertise, qui ont leur création de contenu sur expertise, bah, ils font des contenus experts et c'est un peu plus simple, je trouve. La ligne édito est un peu plus simple. Mais moi, je sais pas, je... La création de contenu, c'est pas que business pour moi. C'est un peu la continuité de ma vie, quoi. Et donc, je le fais parce que j'aime faire ça. Donc, je ne me verrais pas faire des posts en me disant hey, « Tiens, faut que tu postes là, 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 sur un contenu, machin. » Non, peut-être dans une stratégie business un peu, des fois, mais pas globalement, quoi. Du coup, la création de contenu est quand même hyper dépendante de ce que je fais. Par exemple, si je fais rien pendant un mois, bah, vu que j'écris sur ma vie, bah, je ne peux rien écrire. Après, quand je voyage pendant un mois, là, je fais du contenu.
Mais ouais.
C'est pas linéaire, quoi.
Et ok, j'ai plein de questions là-dessus parce que... Parce que là, enfin, tu dis plusieurs choses. Il y a quand même ce truc. Il y a quand même ce truc de. Il y a pas tout le monde qui arrive à parler de soi et trouver c'est un écho chez autant de personnes. Et donc, je pense que quand même, même si t'écris pour toi, t'as réussi consciemment ou inconsciemment. Je pense que quand même aussi un peu consciemment à faire en sorte que ça ait de la valeur pour les autres. C'est-à-dire qu'il y a c'est ton aventure, mais elle a une valeur universelle et c'est sûr. Enfin, c'est certain que t'as réussi à faire ça. Et tu dis aussi que là maintenant tu postes un peu quand tu veux vraiment poster, mais il y a un moment tu as quand même posté tous les jours. Enfin,
pendant un mois, pendant un mois j'ai posté tous les. Tu sais, je crois que je suis à 100 posts, un peu plus de 100 posts sur LinkedIn, ce qui n'est pas grand chose.
C'est pas tant que ça, d'accord, non.
Et pourtant, j'ai publié peut-être 30 posts en un mois. Donc ensuite, en un an et demi, il y a des mois où je n'ai pas posté, quoi. Donc au début, j'ai posté, mais ce n'était pas du tout en fait, ce que j'aimais faire. J'aime pas poster tous les jours, mais c'est juste parce que je voulais apprendre. Et je pense que c'est la meilleure façon d'apprendre, c'est d'envoyer.
De faire un peu de volume.
Ouais. C'est ce que j'ai fait sur Insta, j'ai fait exactement la même stratégie. Pendant au début, un mois, j'ai fait un Reels par jour. Exactement la même chose et ça a marché de la même façon.
De 0 à 17 000 abonnés. Et le... Ok, j'ai double question, mais il y en a une que je garde pour après. En fait, quand même, tu dis que, en fait, 100 posts, c'est pas énorme sur LinkedIn. Enfin, surtout pour avoir 80 000 abonnés, en fait, tout est relatif. Mais il y en a beaucoup qui sont loin de ça et qui postent tous les jours, voire trois fois par jour. Donc, ils en sont à 500 000 posts. Toi, est-ce qu'il y a quand même un truc rétrospectivement qui t'a fait exploser, tu vois, le truc qui a marché? C'est parce que tu... Pour le coup, tu dis, j'ai pas de ligne éditoriale, mais t'es quand même resté fidèle au fait que je partage des choses qui m'arrivent, il m'arrive quelque chose, je le partage, et je donne mon avis, je donne du recul. Il y a quand même un truc un peu insight, quoi. C'est, je prends du recul et je donne mon avis sur ce qui s'est passé, sur mes apprentissages, et ça, t'es resté fidèle à ça. Est-ce qu'il y a quelque chose qui a fait que dans les 100 posts, il y a des trucs qui ont fait boum, quoi?
Ouais, il y a eu des posts qu'on... bien beaucoup marché, mais en même temps ma progression la première année, moins maintenant parce que bah du coup aussi je poste moins et puis même j'ai bénéficié du début, tu vois, où ça partait et du coup bah quand tu commences à poster moins forcément, mais ma progression était assez j'allais dire progressive mais en gros ça, il y a pas d'énormes pics, mais enfin je dis ça, mais par exemple il y a peut-être des posts qui m'ont rapporté 5000 likes, tu vois, un post 5000 abonnés
quoi. Ouais. Mais c'est, et t'as repéré un schéma, un truc qui ce genre de post qui te rapporte 5000 abonnés, tu vois, est-ce que t'as capté des trucs de ah oui ok, ça vraiment ça c'est un schéma qui ramène énormément de monde,
marrant
quoi.
J'en ai fait un Je dis ça, ce matin, j'ai travaillé un post avec une cliente. Je lui ai donné le template d'un de mes posts qui avait super bien marché.
Ok.
Et ça n'a pas aussi bien marché là sur elle. Mais bah, pas vrai. En fait, pas vraiment. Et en même temps, oui. Tu vois, si je sens, maintenant, je le sens, tu vois, quand j'ai un gros post entre les doigts, entre les mains, que ça va fonctionner. Mais par exemple, j'ai des posts dans mon premier mois. Le premier mois où j'ai commencé à poster, j'ai fait un post, je me souviens très bien. J'étais dans mon café, dans mon appart parisien, en train de boire un café. Je commençais à faire mon post. Je suis dans le métro. Franchement, le post m'a pris 20-30 minutes. Je le balance, j'arrive au taf. Et là, je commence à voir que ça explose un peu. Et j'étais toujours au bureau et je vois 4000 likes en 2 jours, quoi.
Ah ouais, ok.
Et c'était un post qui m'avait pris 20-30 minutes. La photo était immonde. J'ai une photo de moi avec mon sac à dos dans une auberge de jeunesse avec qui il y avait 30 lits à côté. Enfin bref, j'ai pas compris, tu vois. Et c'était un truc hyper facile. Le texte était pas du tout. C'était pas très bien écrit, quoi. Donc des fois, il y a des trucs où je prends du temps à l'écrire, ça marche moins. Mais par exemple, je me souviens aussi cet été, j'ai fait un post sur le téléphone. Et ce post, j'ai mis peut-être 4 jours à l'écrire.
Ok.
Et j'ai demandé de l'aide, etc. Enfin, j'ai relu. Enfin, et ça, ce post, ben en fait, oui, j'ai mis de l'énergie et il a marché, il a fonctionné, il a fait, je sais pas, 16 000 likes, un truc comme ça. Et là, je l'ai reposté sur Threads, il a fait 2 000 likes, j'étais contente, je me suis dit, ah, ok, c'est pas que un one shot, tu vois, il fonctionne ce post. Mais j'ai remarqué que, en fait, ce qui est assez logique, mais sur les réseaux, des fois, on se dit un peu, il y a de la chance, mais plus je passe du temps à écrire mon post, mieux il marche. Là, je passe un peu moins de temps pour écrire mes posts, parce que avant, ça m'arrivait de mettre 4 heures à écrire des posts, quoi. Et sauf que
Ah,
c'est plus
énorme.
possible, quoi.
Ouais.
Genre, c'est là, avant, bah, j'aimais bien et tout, mais maintenant, c'est plus possible dans ma vie, j'ai plus envie de passer 4 heures à écrire un post. Mais avant, ouais, je pense que mes posts, c'est pour ça que je postais pas non plus. Tu sais, tu peux pas poster une fois par jour quand tu passes 4 heures à écrire un post.
Non, c'est pas possible.
Mais enfin, chaque mot, chaque tournure de phrase, je la réfléchissais. C'était un peu un tourbillon dans ma tête où c'était douloureux pour moi d'écrire un post. Donc, ça.
Mais tu devais avoir la pression, parce que quand tu mets 4 heures à écrire un post, t'as pas un peu la pression de si flop, j'ai mis 4 heures.
Non. Enfin,
Ok, c'est.
je sais pas, je me suis jamais posé ce genre de. J'ai lâché. En fait, je sais pas c'était quoi un flop, tu vois. Genre,
Ouais.
je me suis jamais dit, oh, je vais flop. Des fois, je me dis, ah, ça part pas,
Ouais.
incroyable. Mais après, je réponds aux commentaires et après, bon, j'oublie, tu vois, je
Oui,
passe à un autre
tu passes à
poste.
autre chose.
C'est pas comme si, tu vois,
T'as
mon.
déjà eu un gros flop, ouais? Parce que, en fait, là, en fait, souvent, tous ceux qui te découvrent, bah, ils te découvrent sur des hits. Tu
Ouais.
fais un post qui fait 4000 likes, etc. Bah, là, ça fait de la découvrabilité, ça fait de la notoriété. Et puis, les flops, on dit qu'on les voit pas, en fait, c'est vrai. Enfin,
Exactement, c'est vrai.
mais toi, t'en as quand même au début. Parce que parfois, ce qui est rassurant d'entendre, c'est quelqu'un qui a 80 000 abonnés. Donc, toi, dis, bah, t'inquiète, au début, moi aussi, j'ai floppé. Ou direct, c'est parti, toi.
Bah du coup le début si enfin le début j'avais je sais pas 10 likes
Ouais.
mais je sais pas je pense que j'ai quand même enfin j'ai eu de la chance c'est que dès là c'est pour ça que en fait il y en a je me dis moi j'ai pas connu le galérer galérer galérer
Ouais.
tu vois et ça c'est ça tu sais ceux qui tiennent sur les réseaux en galérant etc et
Ouais.
un jour ça marche bah ça ils ont un vrai mental quoi que moi globalement ça a marché je m'y attendais pas du tout j'étais pas du tout dans cette optique au début j'étais juste en mode en phase test. Et du coup, non, je pense que dès, je sais pas, semaine 2, 3, j'ai fait des posts qui ont bien marché. Et du coup, après, j'ai pas fait que des hits, tu vois. Mais au tout début, j'avais fait un post sur le féminisme, je crois. J'ai fait pour la journée des droits de la femme, je sais pas, j'ai fait 10 likes. Et là, j'étais en mode, ah! Et
Ok.
c'était mon deuxième post, je crois. Et j'étais en mode, ah! Oui, c'était en
Ouais.
mars. Mais après, non, je pense que ça a bien marché. Et du coup, voilà, j'ai la chance de m'être jamais posé trop la question du flop. Genre là, je le ressens. Genre mon dernier post, il a fait 250 likes, je crois. Et ça m'a fait mal. Et
Pour
je
toi,
t'a... Ah
bah ouais,
ouais.
mais ouais, pour toi maintenant,
Ça,
ça c'est un flop. Pour
ah ouais.
plein de gens, c'est trop bien.
Ah ouais, il m'a fait mal celui-là. Mais après, je me dis, de toute façon, j'ai délivré mon truc. C'est pas. Je définis pas ma valeur sur mon nombre de likes, tu vois. Et puis, surtout, je crois le fait de maintenant. Commencé à développer d'autres réseaux. Avant, LinkedIn, c'était mon main, en fait. Enfin, déjà, business est sur LinkedIn. Et du coup, bah, si LinkedIn ne marche pas, bah, rien ne marche.
Oui, c'était une question que j'avais tout à l'heure quand je disais qu'est-ce que t'apporte ton audience et tes réseaux, le business vient uniquement de LinkedIn.
Ouais, pour le moment. Okay. Et je développe Insta parce que donc je développe un nouveau produit que je pense que l'audience peut être de mon nouveau produit peut être aussi sur Insta.
Ok.
Donc en même temps de créer mon produit, j'ai développé mon audience sur Insta. Comme ça, quand j'aurai mon produit, j'ai déjà une audience, c'est déjà plus facile. Et aussi pour la sponsor. Bah, je me dis, si je fais de la sponsor sur LinkedIn, j'aimerais bien faire vendre du package aussi, en faire avec sur Insta.
Ouais.
Et comme ça, ça fait un plus gros chèque pour une même marque, pour une création qui est un peu pareil. Mais oui, du coup, avant, c'était que LinkedIn. Du coup, bah, mes perfs, je regardais que LinkedIn. Maintenant, je regarde Insta, tu vois. Genre ma barre d'abonnés, je regarde Insta et LinkedIn, je sais même pas, tu vois. Je ne vais pas regarder. Avant, j'actualisais, tu vois, le nombre d'abonnés. Ouais. Je regardais. Maintenant, je regarde plus mes perfs sur LinkedIn, mais je le fais sur Insta. Quand ça marche moins sur Insta, je me dis, ah mince, dommage, tu vois.
Ouais.
Donc, c'est où tu mets ta priorité, ta valeur. Maintenant, c'est moins sur LinkedIn. Je pense que c'est quand tu es en phase de développement.
Oui.
Mais mais du coup, maintenant, j'ai ce truc avec Insta qui est chiant aussi, tu vois. C'est ça, les réseaux sociaux.
Il y a quand même un petit truc de compétition au début. Enfin, tu te dis, faut que je... Enfin, avec toi-même, tu vois. Mais...
Ouais, c'est avec moi-même. Je pense que je suis très dure avec moi-même. Et du coup, genre, flopper, tu vois, c'est pas envisageable.
Ouais, ok.
Mais en même temps, les réseaux sociaux, c'est tellement... Je sais pas, tu sais, j'ai pas envie de dépendre que ma valeur de moi-même dépende des réseaux sociaux, tu vois. C'est donc clair. J'essaye de pas avoir trop une relation toxique avec...
J'ai trop de questions là-dessus, mais avant, je veux finir. On est quand même en train de parler de tes réseaux sociaux, de comment tu t'es mise, etc. Et t'as dit que là, t'avais un peu ralenti et que tu produis du contenu finalement aussi, que tu voulais partager que quand c'est arrivé des choses. En fait, toi, comment t'organises ton processus créatif dans un monde où tout va trop vite, tu vois? Où justement on est quand même sur le règne de la quantité, enfin, et sur les réseaux sociaux, il y a quand même si certains arrivent à aller lentement et à bien réussir par de la qualité, et j'admire ce que tu fais pour ça aussi, c'est quand même, il y a beaucoup plus de lièvres que de tortues, et de plus en plus les algorithmes, j'ai l'impression qu'ils sont faits pour nous rendre addicts, c'est clair, et surtout donner un peu la prime à ceux qui postent 3 fois par jour, qui font 3 reels par jour, etc. Comment tu fais, toi, pour t'organiser dans ce monde-là où tout va trop vite, quoi?
Dans mon monde, tout ne va pas trop vite. Donc, sur LinkedIn, j'ai plus du tout cette pression. J'avais un peu une relation toxique avec LinkedIn. C'est que, donc, écrire des posts, c'était douloureux. Ça me prenait du temps, etc. Et quand je n'écrivais pas, tous les jours, je me réveillais en me disant « faut que j'écrive ». Et surtout quand... ça monte, je me dis, faut que je profite du fait que je peux pas ne rien faire. Enfin, là, c'est en train de monter, il se passe un truc, tu vois. Je me dis, il y a un levier, il faut que je m'en serve et tout, donc faut que j'écrive. Et du coup, ça m'arrivait d'être 3 semaines sans écrire, et du coup, l'état mental au bout de 3 semaines. Mmh. Et après, le retour, revenir, un poste. Par exemple, là, t'as peur de te flopper, tu vois, après 3 semaines. Maintenant, j'ai plus ça sur LinkedIn, mais je l'ai sur Insta. Mais je sais pas, j'essaye de pas être, je suis pas en compétition avec ni les autres ni l'algorithme. Je me dis c'est peut-être un peu naïf aussi, mais je me dis si mon contenu doit trouver les personnes à qui elles sont destinées. Mais sur Insta par exemple, je me suis mis moi je suis très peu disciplinée dans ma vie, c'est mon gros défaut.
Ouais.
C'est la chose avec laquelle je me bats le plus. Et pour Insta, donc par exemple pendant un mois c'était un reels par jour, je me dis juste tu peux pas dormir si t'as pas fait ton reels, quoi.
Ah, okay.
Tu l'envoies dans tous les cas, ce qui était pareil sur LinkedIn avant. Et là maintenant sur Insta je publie un peu plus quand j'ai envie, mais il y a quand même ce truc, tu sais, faut faire des stories, sinon les vues baissent, etc. Mais je sais pas, je vois pas de grosses, c'est comme les gens disent sur LinkedIn, si tu postes pas pendant une semaine après c'est catastrophique, tes stats et tout. Je sais pas, moi j'ai jamais remarqué, ou sinon peut-être je fais pas assez attention à mes stats, mais j'ai jamais remarqué. Là, même je reposte un post, je pense que ça va faire les mêmes résultats que d'habitude, tu vois. Jamais remarqué. Puis même tu bénéficies un peu de ce truc de rareté ou tiens, la revoilà, quoi. Donc je sais pas, mon processus créatif est un peu brouillon.
Ok.
Je fonctionne beaucoup un peu à l'intuition. Ce qui est bien et pas bien à la fois, mais j'essaie d'accepter ça parce que j'essaie de me débattre avec moi-même pendant des mois pour me dire qu'en fait, non, ce qui marche, c'est quand j'ai une intuition, je vais le faire, je vais essayer. Et parce que même quand je me forçais à faire du contenu, ça marchait pas, c'était pas quelque chose qui me plaisait, je me sentais pas bien d'avoir posté un truc qui me correspondait pas à 100%. Donc je fonctionne à l'intuition, tu vois, pour Insta, je suis un peu de la veille, je regarde des vidéos, je regarde, je me dis, oh tiens, ça m'intéresse, ça, je peux le tourner à ma façon, je reprends des fois des posts LinkedIn, tu vois. Ah oui, insane. Pour l'anecdote, j'ai repris un post LinkedIn qui avait, c'était mon plus gros post LinkedIn. Je l'ai repris, et il date d'il y a plus d'un an. Je l'ai repris sur Insta, j'ai mis un Reels de 5 secondes, une vidéo de moi de 5 secondes, j'ai copié-collé le post en description. Le Reels a fait 5 millions de likes. Et je me suis dit, il n'y a pas de hasard, tu vois. Si ce post-là a marché sur LinkedIn, il a aussi marché sur Insta. C'est que le post était bon, quoi.
Okay.
Pareil sur l'autre post, sur celui de cet été, sur le téléphone, j'avais mis sur LinkedIn, il avait bien marché. Je l'ai remis sur Threads, il a bien marché, tu vois. Donc en fait, des fois, c'est pas une question que des réseaux sociaux. Enfin, moi, j'arrive quand même à faire du contenu pour les deux, quoi, qui matche pour les deux. Vu que je ne fais pas du contenu hyper pro sur LinkedIn, j'arrive à m'en servir pour Insta, pour la newsletter, pour Threads, et voilà. Okay. Tout se nourrit un peu.
Ouais, tout se nourrit, ok. Et quand même, quand tu te... Parce qu'il y a un peu ce truc, cette dissonance, c'est-à-dire que t'es au feeling, mais quand même, arriver à te lancer sur LinkedIn et faire un post par jour, te lancer sur Insta et faire un post par jour, c'est quand même violent. Il y a quand même... Et donc, tu crées un peu tout le temps, quoi. Tu t'as pas mis une machine en place ou... Non. Et toi, ta création, elle se fait sur quoi? Je veux dire, c'est une prise de notes sur un carnet pour de vrai, le carnet de Mathilde, ou est-ce que c'est digital? Est-ce que tu te mets une heure précise?
Non, je n'ai pas d'heure précise, mais ça, j'aimerais bien. Je pense que il y a une époque, je faisais ça. Je faisais une heure d'écriture par jour, le soir. Et soit des fois, j'en faisais rien. Des fois, j'en faisais un post LinkedIn. Des fois, ça, c'est bien parce que je pense que pour avoir des idées, il faut écrire. Enfin, il faut... Je sais pas, l'écriture se nourrit de l'écriture, je sais pas trop comment exprimer ça.
Complètement.
Donc mes processus, donc j'ai mon carnet où j'écris. La première chose que je fais en me levant le matin, j'écris une page. Ouais. Ça me prend 20 minutes peut-être. Donc il y a des idées des fois que je peux développer, mais en général non, ça c'est mon bien perso, bien. Donc des fois je mets des idées business, etc. Et toute la journée, enfin toute ma journée, j'ai une app qui s'appelle Google Keep. Qui sont comme des petites notes, et c'est en fait ça, c'est un peu le format du post LinkedIn. Je m'en servais pour faire mes marges, en fait, pour calculer que ma première ligne soit bien ma première ligne, etc. C'est un bordel monstre. C'est-à-dire qu'il peut y avoir ma liste de courses, une idée business, un post LinkedIn dans le même truc. Mais du coup, des fois, je mets des idées et des fois, j'en fais des posts LinkedIn, des fois, j'en fais de la newsletter, des fois, j'en fais du Insta. Mais globalement, tout est sur Google Keep. Et voilà, j'ai pas trop d'autres processus. Avant, j'ai essayé Notion, je mettais tous mes trucs. Non, maintenant, c'est juste Google Keep, je prends mes notes dès que j'ai envie de développer un truc. Maintenant, dès que j'ai un post, bah, je l'envoie dès que je l'ai fait, voilà.
Ah ouais, direct, ok.
Ouais, en général, à part s'il est 19h, quoi, mais...
Mais attends, mais à 19h, ça peut marcher super bien. Hein.
Ah ouais.
Toi, tu l'es fait avant.
Ouais, moi, j'aime bien le faire le matin, c'est-à-dire que je l'envoie après, parce que je suis quand même... J'ai quand même un peu ce vice de t'as envie de regarder les stats, t'as machin.
Ouais.
Et en fait, avant de dormir, bon, à 19h, c'est pas avant de dormir, mais quand même, c'est le soir. Le soir, j'ai pas envie d'être en train de regarder mes stats.
D'accord.
Alors, le matin, je le fais. Après, oui, petite anecdote, c'est je poste mon post. Et pour pas passer. Moi, je suis incapable de travailler après avoir posté un post.
Tu vois, moi aussi, ça prend de la charge mentale de répondre, d'être dessus. Ouais. Ça me.
Tu peux pas avoir.
C'est pour ça que je poste pas le matin, moi, parce que.
Ouais, si
c'était une grosse dissonance, c'était j'ai l'impression que ça marche mieux le matin et t'as plus le temps, mais en même temps après ça me donc moi je poste le soir, mais et tant pis, après je coupe et je découvre le lendemain. Parfois ça a bien marché, parfois
petite surprise du matin,
ouais, quoi. mais toi du coup tu postes le matin?
Ouais, mais vu que je poste une fois par mois, ça va.
Ouais, mais non, oui, mais
ouais, okay. Mais même avant je postais pas, j'ai jamais posté beaucoup, mais oui, j'ai souvent fait le matin. Déjà j'étais habituée pendant mon stage, du coup, j'allais au bureau. Et du coup, je me souciais pas trop normalement, mais post LinkedIn, j'étais au travail. Et maintenant même, tu vois, je poste et après, je fais une activité, soit je fais du sport directement, soit je me prépare, etc. Comme ça, je réponds un petit peu en même temps, mais je suis en train de faire autre chose, je suis en train de faire un truc positif.
Ouais, okay.
Je suis pas là une heure à regarder, parce qu'imagine, ça marche pas. Bah, tu niques une heure à juste dire, ah, ça a pas marché.
Mais ça, c'est super intéressant parce que... Parce que, enfin, moi, le plus dur, c'est pas la création de contenu. J'aime bien écrire, etc.
Ok.
Mais c'est vraiment la distribution, c'est-à-dire poster, être sur le réseau social, avoir des shots de dopamine. Ça marche pas.
Ouais.
Et ça, c'est épuisant, en fait. Je crois qu'on a un stock, hein, d'ailleurs, un peu de dopamine. Enfin, ça se recharge en permanence. Mais du coup, sur un réseau social, quand tu es en train de poster et que tu réponds à des commentaires, en fait, tu es en train d'épuiser ton stock de la journée, quoi. Enfin, après, ouais, je sais pas, t'as pris ton shot et t'as ta montée et ta descente, quoi. Et ouais, non, mais ok. Ah, j'ai perdu le fil, j'avais un truc, je voulais
Ah
rebondir
mince.
sur un truc, c'est pas grave. C'est pas grave, mais merci pour l'orga. Et du coup, globalement, si on prend en global, entre tes activités qui te rémunèrent et ta création de contenu, j'aime bien poser la question, à peu près combien de pourcentage de ton temps tu es en train de créer du contenu versus tu fais vraiment une activité qui te rémunère, genre t'accompagnes des clients.
Tu sais, la création de contenu, par exemple cet été, je suis partie voyager pendant un mois et je suis partie avec un sponsor. C'est-à-dire que 6 de mes posts pendant ce mois-ci, donc là j'avais envoyé quand même un peu plus de posts, 6 de mes posts étaient sponsorisés. Donc la création de contenu, c'est aussi, tu vois, ça fait partie du business parce que
Ouais.
en fait, c'est pas juste écrire un post sponsorisé. Là, c'est du travail.
Oui.
Alors qu'un post sponsorisé, c'est pas du travail parce que je peux pas faire que des posts sponsorisés.
Bien sûr.
Et du coup, je sais pas. Donc, c'est aussi une activité qui me rémunère. L'accompagnement, ça me prend pas tant de temps que ça parce qu'en ce moment, je suis sur de la correction de post. Du coup, en fait, globalement, j'ai même pas de, j'ai pas de call.
Ouais.
C'est parfait pour moi. J'ai juste un Notion, tu vois, où je corrige et ça, j'adore faire ça. Tu vois, même. Tu vois, je pourrais considérer que ça, c'est pas du travail, parce que pour moi, c'est de l'écriture, et ça, c'est un truc que j'adore faire. Donc, je saurais pas te répondre, et aussi, par exemple, ça fait 3 mois que je développe un produit,
Ouais.
bah, ça me rémunère pas encore, tu vois. Et le nombre d'heures que j'y ai passées,
Ouais.
c'est... D'ailleurs, j'aurais dû calculer, parce que je sais même pas si ça va être un produit rentable, tu vois. Enfin, je sais même pas à combien je suis à ma rentabilité. Je sais pas à combien vaut mon heure. Donc, je serais incapable de te répondre, tu
C'est
vois.
vrai, tu t'es dit un prix à l'heure, toi, combien sur le
Non.
marché, combien tu veux que valent une heure de Mathilde?
Non, en vrai, je sais pas, je suis pas trop dans ce. Parce que, ok, 1 heure, mais ça, par exemple, 1 heure de call, je peux pas en faire. Tu sais, les gens qui disent, oui, je prends tant euros de l'heure. Ouais, mais c'est 1 heure, mais il y a. Avant, tu fais des mails, tu
Oui.
vois, tu fais des posts pour avoir cette heure-là. Après l'heure, enfin moi j'envoyais un compte rendu, etc. Ça me prenait tant. Ok, je prenais. C'était il y a un an, je prenais 250 euros de l'heure, tu vois. C'était le prix avec lequel j'étais à l'aise. Je sais pas si c'était trop ou pas cher. Mais avant ça, tu vois. Et puis même 30 minutes avant le call,
Bien sûr, t'es pas en train
bah
d'en
non.
faire un
J'étais
autre.
en train de regarder la personne, etc. Alors que la personne me payait que pour 1 heure. Mais quand même, j'étais en train de regarder son profil LinkedIn, etc. Après, je faisais un débrief, un machin. Donc en fait, je sais pas combien je vaut. 1 heure serait. Oui, peut-être si on call par exemple. Ouais, même. Même on prend une conférence 1 heure, bah en fait, faut que je la prépare.
Bien
Faut
sûr, non, mais c'est
que.
important de le
Ouais.
dire.
Donc
En
en
fait,
fait.
c'est une heure vendue, une
Ouais.
heure facturée n'est pas une vraie heure de. Enfin.
Et puis même, ça dépend de ce que j'ai envie de faire, tu vois. Il y a des trucs que c'est moins cher parce que j'ai vraiment envie de le faire. Ou c'est avec une personne qui a moins de moyens. Une entreprise peut-être qui a moins de moyens, etc. C'est une grosse entreprise. Bah, je vais facturer plus cher parce que
Ouais.
plus de moyens, et puis même des fois, si ça me demande plus de charge mentale, mais ça, on le voit pas, tu vois, dans 1 heure. Tu payes 1 heure, mais des fois, moi, ça me demande plus d'efforts, etc. Donc, je sais pas, j'ai pas de prix à l'heure, tout dépend de même. Pareil pour la sponsor. Bah, en fait, tout dépend de la marque. Tout dépend de comment j'ai envie de l'intégrer. Si c'est un truc qui me fait vraiment kiffer, la marque, c'est une petite marque, etc., bah, je vais mettre moins cher, tu vois, qu'une grosse marque. Donc, je sais pas, j'ai pas de. Je saurais pas me
Mais c'est une
tarifer.
bonne réponse. Je ne sais pas non plus exactement. En fait, ça dépend de l'activité. Hein.
Ouais.
Et puis surtout, tu as raison de dire que en fait, derrière 1 heure facturée, il y a potentiellement beaucoup d'heures de travail, puis beaucoup d'heures, voire d'années à apprendre en
Mais bien
fait,
sûr.
pour développer la compétence. Donc c'est ça que les gens payent en fait. Tu as dit plusieurs trucs tout à l'heure qui m'amènent à une question que j'ai. C'est un, tu. T'as dit, bah là, je poste que quand, en fait, que quand j'ai des trucs à raconter. Et si je suis pas bien, je vais pas poster. Et je me mets quand même pas mal en avant moi. Et du coup, il y a quand même un truc de ah, ce post-là, il m'a fait mal parce qu'il n'a pas aussi bien marché, parce qu'en plus, tu ne t'exposes pas. Moi, j'ai une question, c'est qu'avec bientôt, enfin, avec 100 000 personnes dans une audience, tu parles de toi, tu es quand même super exposé. Il doit y avoir à boire et à manger dans les commentaires. C'est LinkedIn, il y a des haters, ça reste à peu près parce que les gens, ils sont quand même sous leur vraie identité. Sur les autres réseaux sociaux, c'est n'importe quoi. Et tu t'es partagé que tu étais en plus super sensible et tout. Et en fait, comment tu fais pour gérer la charge mentale des réseaux sociaux? Enfin, cette charge mentale-là de sollicitations, de sursollicitations, parfois pas sympa en plus.
C'est pas facile. Je sais pas encore comment j'arrive à la gérer. Sur LinkedIn, le troisième mois, donc quand j'ai quitté mon stage à la BNP, j'ai fait un post. Je dis, je quitte mon stage. Ce stage était très bien, j'étais très bien payée, le management était super, etc. Mais j'arrivais au bureau avec la boule au ventre et pour moi, c'est pas possible. J'avais mis une photo de moi et on voyait un peu sur mon badge vite fait le logo, mais j'avais photoshopé en plus, bref, avec deux grandes tours. Et ce post a fait 1 million de vues. Alors je m'attendais pas du tout. Hein. C'était pour moi, je quitte mon stage juste pour tenir au courant les gens. Quoi. Oui. Et je m'étais pris les foudres de la génération. Non mais on ne quitte pas un stage, on ne quitte pas un job. Genre, oh là là, il y avait beaucoup de sexisme aussi. De ah ouais. Là là, la demoiselle, Bref, du coup, ça, je me suis dit, ok, bon, bah, c'est un choc de génération. On n'est pas de la même génération, on se comprend pas trop. J'avais enlevé la possibilité de mettre des commentaires au bout d'un moment parce que juste au bout de 3 mois, et surtout que. Avant LinkedIn, jamais je me suis dit que je posterais sur les réseaux. Enfin, c'était pas du tout une vocation, ça m'a jamais attirée. Enfin, bon, bref. Et du coup, au bout de 3 mois, c'était un peu difficile. Il y avait l'été qui a suivi. J'ai eu un monsieur qui me fait harceler bien fort sur tous les réseaux. C'est-à-dire que j'ai bloqué la personne. Il venait en mail, il venait, bref, sur tous les réseaux. Il a mis dans mes commentaires l'adresse de chez ma mère.
Waouh, ok, donc ouais, là, flippant. Ouais. Okay, là,
ouais, il a retrouvé des trucs en disant par rapport à mon père. Ok, et là, ça m'a fait un peu mal. Et aussi, apparemment, il a envoyé un courrier recommandé à mon école. Donc, il y avait un truc de. Ouais, cet été-là, j'étais un peu en mode ok, mais j'ai pas. En fait, est-ce que ça vaut le coup, tu vois? Est-ce que ça vaut le coup? Parce que là, je me sentais vraiment piégée, emprisonnée. Je me dis, est-ce que ça vaut le coup, tu vois? Je gagnais pas non plus. C'était le tout début, je gagnais pas énormément d'argent. Et je me suis dit. J'étais en études, donc j'avais d'autres possibilités, quoi. Donc je me suis dit, est-ce que ça vaut le coup de continuer et tout? Et je me suis dit, ok, je continue. Enfin, et après, maintenant, par exemple, sur LinkedIn, j'ai plus aucun haters parce que chez moi, en fait, quand tu fais une publication à 1 million de vues, bah, en fait, j'ai compris maintenant, tu vois, que j'avais des haters que quand le post était, faisait énormément de vues, du coup, était grand public, du coup, atteignait des gens qui sont pas ma cible, qui sont pas mon audience de base. Donc maintenant, je comprends. Ok, j'ai des haters, ça veut dire que mon post a bien marché.
Ouais.
Mais sur LinkedIn, maintenant, ça n'arrive plus trop. Enfin, j'ai bloqué. Et... Je ne suis pas très clivante, moi, en plus, sur LinkedIn. Je ne cherche pas. Je pense au coût d'opportunité. Des fois, je pense des choses où j'ai envie de dire des choses et je me dis, c'est quoi le coût d'opportunité, tu vois? Peut-être que je vais me prendre de la haine. Ça ne sert à rien pour un post. Si je ne suis pas à l'aise avec le post, je ne publie pas, tu vois? Genre, je m'en fiche de... Il y aurait plein de posts que je pourrais faire. Je pense que ça peut buzzer. Mais le coût d'opportunité de ma santé mentale est trop gros et je m'en fiche. Là, sur Insta, quelque chose de nouveau encore pour moi.
Bah, un Reels à 5 millions de vues. T'as forcément du...
Ah, là, j'ai pris...
Ouais.
Mais sur LinkedIn, ce qui était dur, c'est que c'était des professionnels, entre guillemets.
Ouais.
Des gens qui avaient un statut haut placé. Et c'est surtout dans la place publique, quoi.
Ouais, ouais, ouais.
T'as ton fil, tout le monde qui le voit. Et du coup, s'il y a quelqu'un qui met un commentaire, c'est que... Il veut t'humilier, tu vois.
Et le pire, c'est que quand t'as un hater qui met un commentaire, souvent t'as tous les autres qui osaient pas qui vont venir liker le commentaire du hater. Ils sont pas très courageux souvent, donc c'est ça qui est terrible.
Mais là, sur Insta, j'ai eu ce problème là en ce moment. C'est-à-dire, j'ai mis on sort un peu du cadre de travail, mais j'ai mis un post il y a une semaine avec un décolleté. Parce que déjà, je mettais toujours. Voilà, faut que je le dise parce que c'est une vérité qu'on a les femmes.
Mais
par exemple, sur LinkedIn, ça m'est arrivé de des fois photoshopper mon haut pour que ce soit pas... Ou même de je me change avant une photo pour être sûre que, tu vois, on vienne pas me parler pour ça, tu vois. On vienne pas me sexualiser alors que c'est pas du tout ce que je veux sur LinkedIn. Sur Insta, je m'en fiche. Moi, c'est du contenu lifestyle. Je mets ma vie, je m'en fiche. J'étais à Bali, tu vois.
Oui, t'es...
Bon, puis même, dans tous les cas, on s'en fout.
À Bali, t'es pas en pull écharpe.
Exactement. Et j'ai mis ça. Et c'est un Reels qui a bien marché. qui a fait 7000 likes et les commentaires, j'avais jamais vu ça, où c'était bon, de l'insulte. Et j'ai eu, je pense, beaucoup d'hommes d'une cinquantaine d'années. Je pense que ouais, j'ai au moins 30 DM, 30 messages privés d'hommes d'une cinquantaine d'années, tu vois. Et je me suis dit, waouh. Je me suis dit, ah, mais en fait, c'est dommage parce que là, du coup, je me dis, bah, j'ai pas envie de refaire ce type de réel parce que je sais que ça attire ce genre de personnes. Et moi, j'ai pas envie je préfère avoir moins d'abonnés que ce type d'abonnés, quoi. Et du coup, je me dis, c'est dommage parce que j'ai pas envie de me bloquer par rapport à ça parce que c'est. Je sais pas, pour moi c'est bête, mais en même temps ça m'attire une audience que je n'ai pas envie d'avoir, quoi. Donc je me rends, oui voilà, maintenant j'ai un type d'audience, enfin, nouvellement, que je n'ai pas envie d'avoir des messages. Insta, genre sur LinkedIn, je vais regarder tous mes messages, je les trie, je réponds à la plupart. Alors que j'ai beaucoup plus d'abonnés sur LinkedIn, mais ouais. Sur Insta, je pense que je reçois 15-20 messages par jour. Et des fois okay. C'est très gentil, hein. Mais c'est différent, sur Insta les gens sont beaucoup plus, ils vont t'envoyer un message pour rien, quoi, enfin pour te dire des trucs, pour réagir des, enfin je sais pas, alors que sur LinkedIn c'est quand même
donc ouais, sur Insta tu peux répondre par le petit cœur là.
Oui, mais en fait ça te met si tu réponds à la personne, ça la met dans tes messages. Ah, et du coup t'as les notifs de messages, enfin ouais, okay, t'as okay. Les ouais. Moi j'aime pas avoir des messages non lus, etc. Okay. Donc en fait, si même des fois c'est gentil, mais juste j'ai pas envie que ça me fasse des messages, etc. Donc sur Insta c'est un peu ouais, c'est beaucoup plus virulent, où on te traite, genre on t'insulte. Ouais. Sur LinkedIn encore, on t'insultait pas. Des fois on te dit des trucs, voilà, mais surtout que, tu sais, une jeune de 22 ans qui arrive, voilà, sur LinkedIn, j'étais, il y avait pas le meilleur profil, entre guillemets. Mais là, sur Insta, j'étais choquée, et des fois je serais juste comme ça. Et pour le moment, du coup, niveau santé mentale, je suis un peu en train d'essayer de trouver okay. Une routine, parce que, pour le moment, en ce moment, enfin, la première chose que je fais, c'est je scroll Insta, mes notifs, et je regarde les commentaires. Et quand, dès que tu te lèves, là, ça fait une semaine que je me lève, et je vois des messages de mecs de 50 ans, quoi. Enfin, pas que de mecs de 50 ans, mais de mecs, la plupart. Et du coup, bah, tous les matins, je bloque. Mais en fait, quand tu te réveilles et tu fais ça, je me dis...
Ah, mais tu fais ça le matin ?
Mais oui, sais que c'est pas bien. Mais je sais pas, t'as cette envie de voir, quoi, de pas laisser... J'ai pas envie que ce soit impunément dans mes commentaires.
Je comprends.
Mais bon.
Ah non, mais il y a ce truc. Là, bah, déjà, dans l'absolu, quelle que soit l'heure de la journée, ça doit être, ça doit être trop dur de lire ça. Mais moi, j'en ai déjà eu, mais rien du tout, tu vois. Parce que j'ai remarqué que dès que tu testes des reads ou des trucs, je suis pas du tout bon sur Insta, YouTube, mais j'ai testé 2-3 trucs qui ont eu quelques milliers de vues, même pas des millions. Et déjà, là, t'as des insultes. Mm-mm. Alors que je suis un mec blanc. Enfin, a priori, je suis pas du tout une cible, enfin je suis pas la cible la plus facile, et pourtant il y en a, donc je me dis, mais enfin bref, c'est, on touche une population pas très courageuse, et souvent les gens sont cachés derrière des pseudos en plus. Mais surtout moi, mais même sur LinkedIn, alors que j'ai pas trop de haters et tout, mm-hmm. Mais si je regarde LinkedIn le matin, j'ai une boule au ventre.
Ah ouais,
ouais, moi ça me met une okay. Je sais pas, il y a un truc où même si j'aime bien créer du contenu, j'aime bien les gens et tout, enfin je sais que j'essaie de m'interdire d'aller sur les réseaux sociaux le matin, enfin en fait
toi le
fait
d'être autres.
Stimulé par les notifs, le fait de pouvoir potentiellement recevoir un message désagréable qui va impacter ma première heure de la journée, et du coup la première heure de la journée elle est importante, elle conditionne un peu l'humeur de tout le reste. Maintenant j'ai vachement peur de ça, et j'essaie de faire super attention Et donc je me dis, putain, comment tu fais pour se prendre ça dès le matin,
ouais, ça doit être chaud. Je sais que c'est pas sain, et que là c'est à moi de m'imposer une discipline, parce que c'est quand même violent, tu vois. Si tu te prends un truc comme ça dès le matin, c'est violent. Ouais. Et tu vois, il y a un sujet, j'aimerais bien développer, mais en même temps j'ai peur que... Je sais pas si j'ai assez traité le sujet, mais en gros, la plupart des gens disent que, tu vois, les créateurs de contenu, etc., sont un peu hors sol... qui comprennent pas le monde qui nous entoure, qui comprennent pas les problématiques de chacun, tu vois. Et moi, je pensais ça aussi. Il y a des gens, je me dis, ils sont totalement hors sol, tu vois. Ils parlent de leur vie, mais c'est pas du tout la vie du quotidien des gens. Mais des fois, je me dis, je crois que c'est mieux d'être hors sol, parce que si être dans le sol, entre guillemets, tu vois, c'est faire face tous les jours à des gens qui sont tristes, du coup, qui t'envoient des messages pour te dire que, du coup, ta vie, blablabla, machin, leur vie est triste et machin. En fait... être dans le sol, c'est aussi se prendre des insultes, etc.
Ouais.
Donc des fois, il vaut mieux être un peu hors sol et pas être au contact tout le temps de... Mais c'est dur, parce que Enfin, j'ai pas envie de devenir cette personne insensible ou même je reçois des messages. Tu sais, il y a un moment donné, même sur LinkedIn, je recevais tellement de messages que bah, je répondais merci, merci, tu vois. Mais ça n'avait plus de. Tu sais, ça a plus une saveur
Oui.
d'un vrai merci. Je me dis, ah tiens, il faut que j'enlève cette notif, tu vois. Je répondais merci, voilà. Alors que. Enfin, c'est nul, quoi. Mais en même temps, quand tu reçois un taux, et du coup, là maintenant, je commence à. Vu que quand je reçois un taux aussi de messages négatifs, de messages inutiles. Bah, je suis juste en mode ok, impassible. Je me dis c'est dommage parce que c'est une connexion aux vrais gens. Et on en a parlé un petit peu avant, mais du coup là ce que je vais essayer de faire c'est de développer le réel quoi. Parce que en réel, il y a personne. Tu sais, enfin, je vais dans la rue. Je vais rencontrer des gens, il n'y a personne qui va m'insulter. Je vais mettre en décolleté, personne va m'insulter. Oh, quoi que à Paris, on sait pas,
Quoique, mais
mais.
non, mais t'as raison, dans la
Ouais.
vie réelle.
Voilà, les gens vont pas te dire ce qu'on te dit sur les réseaux. Donc j'aimerais bien développer, tu vois, me servir de mes abonnés, des rencontres. Sur les réseaux pour en faire dans la vraie vie, quoi, avoir de la vraie vie, parce que sinon, on est juste. J'ai l'impression des fois d'être dans une bulle des réseaux, parce que bah, ma bulle, c'est. J'ai une bulle où je me fais insulter, tu vois, parce que je mets un décolleté, genre.
Ouais.
Enfin.
Et ouais, et je pense que c'est une bulle. Effectivement, c'est même pas la vie réelle,
Ouais.
même pas être dans le sol finalement, parce que c'est encore une autre
C'est la
bulle,
vie.
celle-là
Ouais.
négative, t'as la bulle positive, la bulle négative. Mais d'ailleurs, juste, on a parlé des haters, ils sont présents et ça doit être super dur, mais comment tu fais, parce que t'as même des sollicitations positives, j'en suis sûr, comment tu fais, est-ce que tu t'es mis des règles pour gérer les sollicitations, juste, même ceux qui veulent te proposer, qui te disent un truc gentil, t'en parlais, merci, merci, enfin, qui te proposent quelque chose. Comment tu fais pour gérer? Ça doit être impossible. Moi, j'ai du mal, j'ai une charge mentale à pareil, j'aime bien me dire, pas prendre les gens de haut et je vais leur répondre, tu
Ouais,
vois.
bien sûr.
Potentiellement dire non, potentiellement dire oui, potentiellement dire merci. Toi, ça doit être mais fois 12 000, comment tu fais, quoi?
Sur LinkedIn, j'arrive à gérer ça parce que j'ai décidé de. Avant, j'avais plein de messages, je les ouvrais et je répondais pas. Et du coup, tu sais, très en tête.
Ouais.
Ah, bien, j'ai pas répondu. Mais en même temps, ça m'intéresse pas vraiment. Mais en même temps, je sais pas.
Oui.
Je prends une décision, c'est que si je sais pas quoi répondre, si dans les 5 minutes, enfin, je sais pas, je lis le message, pendant les 2 minutes, je sais pas quoi répondre, je sais pas. C'est trop long, j'archive, tu vois. Et du coup, c'est plus une charge mentale. Le message, je le vois plus. Et si la personne, c'est vraiment important pour elle, elle me renverra un message, tu vois. Elle m'enverra un mail, elle m'enverra sur Instagram. Beaucoup de gens sur LinkedIn m'envoient des messages sur Instagram. Mais du coup, sur LinkedIn, j'arrive à gérer maintenant à peu près. Pour les demandes, il y a souvent des demandes de podcast, tu vois. Ça, je sais pas trop encore. Je suis un peu nulle à chaque fois à dire bah non, bah oui. Du coup, je sais pas
Merci
trop.
d'être venu sur
Oui.
ce podcast.
Mais tu vois, je sais pas trop. Enfin, je suis encore un peu. Ah, je suis en voyage et tout. Je suis encore un peu nulle sur ça. Et j'essaye de prendre en maturité aussi. Donc, sur LinkedIn, j'arrive à peu près à gérer. Il y a des gens à qui j'ai pas répondu, mais en fait, ils sont archivés parce que soit leur demande n'était pas claire, soit on me demande des trucs. Des fois, c'est fou ce qu'on te demande. Je me dis, les gens n'ont pas d'intelligence sociale. C'est-à-dire qu'ils se mettent pas à ta place, tu vois. Ils vont te demander des trucs, mais je sais pas. Oui, c'est quoi la meilleure destination pour partir en
Ouais.
voyage avec ma famille? Est-ce que j'ai ces criques guide
Tu as
touristique, tu vois?
marqué.
Mais du coup, c'est plein de trucs comme ça. Du coup, j'archive les questions. Tu sais, enfin, je suis en mode. Ok. Sur Insta, j'ai pris la décision, tu vois, même si c'est un message gentil, des fois, c'est dans mes demandes de
Oui.
messages. Bah, juste, des fois, je réponds pas parce qu'il y en a tellement et que. Et que je me dis si c'est vraiment important, la personne reviendra, tu vois. Genre, si c'est une demande, si c'est. J'essaye de répondre, même en défaut en story, de faire des réponses à des questions globales, comme ça, c'est pour tout le monde. J'avoue que je sais pas trop comment gérer, parce que des fois, je me dis, mais ça pourrait être moi, la personne qui envoie un
Bah
message,
oui.
tu vois, qui peut changer, entre guillemets, la vie de quelqu'un juste avec une phrase. Donc, j'essaye tant que je peux. Mais après, le problème sur Insta, c'est voilà, tu réponds à un message, ça me met dans mon truc de message global, et Insta, c'est avec la. Enfin. Là-bas que je parle à mes amis, je parle.
Ouais, donc ça pollue, ça vient
Donc ouais, ça
polluer
fait
tout
un
ton.
peu. Donc il y a des personnes qui sont devenues mes amies, comme ça, par message, hein, mes amis. Des bonnes connaissances par message, mais des fois, je peux pas répondre à toutes les sollicitations. Et surtout que sur Insta, c'est énormément, quoi. Et c'est beaucoup comment je voyage seule, comment machin. Et j'ai fait une tonne de contenu sur ça, tu vois. Si les gens
Oui.
allaient. Et aussi, bref, encore autre chose, mais sur LinkedIn, j'ai remarqué un truc. Les gens qui viennent t'envoyer un message pour te demander de liker. Leur post, tu vois.
Oui, ça c'est chelou.
J'attends ton like et je me dis, ces gens, je regarde pas tous mes likes, mais je suis sûre qu'ils likent pas mes posts, tu vois. Et je me dis, mais c'est fou comment les gens réfléchissent pas, tu vois. Ils vont te demander à toi de faire un truc que eux ne font pas. Genre, enfin, c'est fou, si toi tu comprends la valeur d'un like, bah donne des likes, tu vois. Enfin, c'est pour ça que j'aimerais faire ça, mais les personnes qui demandent ça pour un projet, pour machin, bah aller apporter de la valeur, aller apporter du soutien à d'autres personnes, et les gens vous renverront du soutien, tu vois, en vous voyant, mais c'est un truc un peu plus long terme.
Oui, c'est pas, le principe voilà. De réciprocité, quoi, mais qui oui. Se met, c'est juste humain, ça mais se oui. Met en place. En fait, c'est comme dans la vraie vie, quoi. Tu donnes mais et puis oui. Ensuite tu reçois. Mais j'avoue qu'il y a, il y a ce truc-là et c'est chelou.
Il n'y a pas d'intelligence sociale, tu vois. Genre, on pense qu'on est des bots. Enfin, je sais pas, genre, moi, tu viens avec un poste, j'attends ton like. Non, enfin, genre, quoi ?
Fais du bon contenu. Et...
Ouais, genre, enfin, je sais pas si c'est quelqu'un qui vient, que je vois souvent dans mes commentaires, qui me dit « Ah, tiens, Mathilde, là, c'est un poste important pour moi, etc. T'as aucune obligation, mais si tu pouvais... » Bah là, ok, tu vois. Quelqu'un que je connais ni d'Adam ni d'Ève, coucou, j'attends ton like. Non, genre, ouais. Je sais pas, les gens ne feraient pas ça dans la vraie vie, ou sinon c'est bizarre, mais ouais. Ils ont pas d'intelligence sociale avec les autres, quoi, j'ai l'impression.
Ouais, ça c'est un truc que j'ai observé aussi sur les réseaux, c'est qu'en fait il faudrait calquer ça dans la vraie vie, genre, dans la vraie vie, tu rencontres quelqu'un une fois, tu l'as vu dans une soirée, bah tu peux lui dire, hey, on s'est vu là, et potentiellement lui rappeler un truc dont on a parlé, enfin rebondir, etc. Mais tu vas pas croiser quelqu'un et lui dire hey, tu peux me faire ça, enfin ouais, c'est trop vrai. Chelou, oui. Et genre, en fait c'est vrai que ce qu'on ne fait pas dans la vraie vie, mais en fait faut pas le faire non plus sur les réseaux, c'est pas parce que t'as accès à quelqu'un par message que tu vas lui faire une demande comme ça. C'est ouais, ça c'est chelou, mais du coup t'archives, et moi du coup je te cache pas que moi aussi, et pourtant j'ai ouais. Pas autant de demandes, mais parce que en fait sinon c'est juste une question de santé mentale. Je me dis que c'est dire non à ça, c'est dire oui aussi aux gens qui font l'effort, tu vois, et qui méritent ouais. Notre attention, parce que c'est quand même... depuis le début, on parle de réseaux sociaux et tout, et tout ça, ça nous prend notre attention, et je trouve que le temps volé par les réseaux sociaux et par les sollicitations, c'est quand même un fléau du monde moderne, tu vois. Enfin, et tu me fais très envie quand tu me dis que tu t'organiser peut-être un mois de coupure, parce que le silence et la reconnexion à la nature, c'est tellement rare, quoi.
Ouais, pour avril, mais tu sais que j'avais même pas, on m'a proposé quelque chose, là c'est un gros projet, et c'est que hier où j'ai réagi, ah, mais en fait ça peut être, parce que c'est un projet qui va jamais, je vais jamais autant sortir de, là c'est sortir, c'est pas élargir ma zone, là c'est sortir.
Tu peux pas en parler encore.
Non, j'ai pas encore sorti, et j'attends. Je sais pas, moi j'ai peur de l'œil. Enfin,
On a un teasing. Ouais, ok, est-ce que ça te porte malheur aussi d'en parler avant? Ouais, je comprends.
J'ai peur que ça se fasse pas et qu'après j'ai dit un truc. Ouais. Mais, et oui, du coup, j'aurai pas de téléphone pendant plus de 20 jours. Et c'est qu'aujourd'hui, enfin non, c'est hier, j'en parlais avec un ami qui me disait, bah oui, il y aura pas de. Ah tiens, faut que je fasse ça demain. Ah tiens, faut que je.
Ah, c'est incroyable.
Et je me dis, ah, mais c'est trop bien. Genre là, pendant 20 jours, je vais juste penser à mes besoins dans l'immédiat. Je vais pas penser à l'après, à machin, etc. Bref, c'est... Et juste, je revenais sur les messages, juste parce que... En fait, je comprends aussi, il y a des gens qui envoient des messages, mais moi, que je peux comprendre parce que j'aurais pu envoyer ce message il y a 2 ans. Par exemple, il y a des gens qui m'envoient des trucs, oui, donne-moi des conseils pour voyager seul. J'ai 100 messages comme ça, je fais de la création de contenu sur ça, donc en fait je vais pas trop faire donc j'essaye de faire déjà du contenu que je peux envoyer, voilà. Mais en fait moi j'aurais pu envoyer ce message il y a 2 ans, tu vois, à quelqu'un, je vois quelqu'un sur les réseaux qui voyait seul et lui demander, tu vois,
ouais.
Donc j'aurais pu le faire, donc je comprends la démarche, c'est juste que moi dans ma situation faut que je me protège moi-même, c'est pas à l'autre. Des fois, c'est en fait, faut pas donner la responsabilité à l'autre. Tiens, c'est la personne, ça me saoule parce qu'il y a trop de messages. C'est à ta responsabilité, c'est comme ça, de t'organiser, de te dire, ok, je ne répondrai pas, tu vois, genre, et j'enlève ça de ma charge mentale. Donc, je blâme pas les autres parce que je peux comprendre. Et moi-même, j'ai envoyé un message à un créateur de contenu il y a 2 ans. Et ça a changé, genre, ce qu'il m'a dit a changé ma vie, tu vois. Et le message que je lui avais envoyé, c'était nul à chier, quoi. C'était un message. Moi, j'aurais pas répondu là maintenant.
Donc, qui ? On peut en parler ou non ?
Ouais, c'était Ulysse. Oui. J'avais envoyé un message par rapport à un voyage. Et du coup, c'est comme ça que j'ai découvert LinkedIn, etc. Donc, ça a quand même eu un gros impact.
Ouais.
Et je me dis, du coup, si moi, je peux avoir quand même cet impact sur des gens qui m'envoient un message comme moi, j'aurais fait. Je veux pas juger les gens. Et des fois, je veux essayer. Mais bon, au bout d'un moment, faut se mettre une... une barrière, quoi.
Je comprends. Merci beaucoup pour les, ouais, pour les tips, parce que ça doit pas être facile et c'est la, enfin, c'est une vraie question pour les gens. De... Est-ce que je réponds à tout le monde? Est-ce que je réponds pas? Et je pense que c'est, faut le gérer avec soi. Allez, les dernières questions du tac au tac, parce que je veux te libérer à l'heure. J'en ai trop, mais du coup, faut que je choisisse. C'est quoi, là, on était sur des trucs un peu plus durs. C'est quoi ton meilleur moment depuis? Depuis le début de ton aventure de créatrice de contenu, depuis que t'as quitté ton stage, quoi.
Ah ouais, le meilleur moment, je sais pas trop si j'ai des meilleurs moments. J'ai un très bon moment. J'étais en septembre dernier à une conférence. C'était avec Stello, une assurance.
Ouais.
Et on parlait de repousser ses limites, donc c'était mon sujet. Et en fait, c'est clairement que du LinkedIn, quoi. Enfin, que des personnes LinkedIn, donc qui me connaissaient de LinkedIn. Et en fait, c'était trop bien, parce que c'était de la rencontre en réel, quoi. Et je suis arrivée le matin, et jusqu'au soir, en fait, dès qu'une personne partait, enfin, il y avait une personne qui venait me voir, qui me connaissait, et qui venait me poser des questions, qui venait me parler, etc. Moi aussi, j'allais voir d'autres personnes, hein. Et en fait, c'était trop bien, enfin, c'était épuisant, parce que moi, je suis une introvertie, donc à la fin, j'étais lessivée. Mais c'était trop bien, je me souviens même, il y a quelqu'un qui m'a dit quelque chose, ça m'a vraiment mis les larmes aux yeux. Et je me dis, ouais, ok. Parce que des fois, tu vois pas l'impact que tu as. Moi, je me dis, je fais que des posts, tu vois, je sauve personne. C'est pas... Et je fais des posts qui parlent de moi en plus. Donc, je me dis, des fois, j'ai du mal à comprendre l'impact que ça peut avoir sur des gens. Et du coup, voir des gens en réel qui te le disent, parce que, ouais, en fait, ça revient à ce qu'on disait. Quand on te le dit par message, oui, grâce à toi, j'ai voyagé solo. Ah, trop cool. Je suis en mode, ouais. Ah, trop cool. Bah, on me l'a envoyé d'autres fois, tu vois. Donc, enfin, je suis en mode, je suis vraiment contente, mais ouais. Tu sais, t'es derrière ton écran, t'es dans ton moment de répondre aux messages, donc c'est un peu une to-do list, quoi. Voilà. Ouais. C'est une to-do list. Et oui, ce que je fais jamais, c'est répondre directement, tu vois. C'est, je me cale des créneaux. Bref. Et du coup, là, cette personne qui me le dit en vrai. Ah, tu sais, c'est une personne, c'est tangible, enfin c'est,
ouais.
Puis c'est une personne sympathique, enfin tu te dis ah cool quoi, genre là il y a, ouais, ça c'est de la création de contenu, c'est pour ça que je veux faire ça cette année et que je me posais aussi la question de Paris, parce que Paris c'est trop cool pour ça, à chaque fois que je viens je rencontre des personnes, c'est trop cool, ça me fait avancer, ça me fait, tu sais, un petit coup de boost quoi, t'es en mode ah cool, là je peux retenir 2 semaines sur les réseaux et comprendre que ça a un vrai sens. Des fois c'est difficile de trouver du sens, tu vois, dans ce que tu fais. Je fais des posts sur moi, je fais des reels un peu en mode des vidéos un peu à l'arrache, tu vois. C'est difficile de trouver du sens là-dedans. Donc quand tu vois des personnes en réel qui te disent vraiment ce que ça leur a apporté, c'est trop cool.
Ouais, que ça crée de la relation dans la vie réelle. Ouais. Ah mais trop cool. Et allez, dernière question. Avant dernière question, est-ce que il y a une question que je t'ai pas posée, que tu aurais voulu que je te pose?
Ah, je sais pas du tout.
Il y en a peut-être pas.
Non, il y en a peut-être pas. Il y a peut-être un sujet sur lequel... en gros, quand on a parlé du temps de travail...
Oui.
Moi, j'ai encore, je suis encore en train d'expérimenter ça. Mais des fois, j'ai du mal à comprendre comment... Je sais pas comment exprimer ça. Comprendre comment je dois allouer mon temps de travail. Par exemple, j'ai bossé, tu vois, trois mois sur un produit. Et du coup, je me dis, ah ouais, donc là, ça va me faire vivre, enfin, ça va pas me faire vivre, enfin, on verra au lossement, tu vois.
Je te le souhaite, ouais. Franchement, que ça explose.
Oui, mais ce sera quelque chose qui sera pendant des années, je pense, tu vois, j'ai construit un truc, etc. Et des fois, c'est hyper difficile, tu vois, d'être stable sur ça, parce que t'as un revenu, enfin, là, j'ai quasiment tout coupé, tu vois, pendant 3 mois pour faire ça. J'avais juste quelques services à côté, mais c'était difficile. Et je sais pas où je vais en venir, tu veux juste un partage, tu vois.
Ouais, mais un partage sur le temps de travail, ouais.
Ouais, ou du coup, c'est, tu vois, c'est, tu sais pas, l'activité d'entrepreneur, est, enfin, moi, ma vie est fondamentalement instable. Et ça qui est difficile, et je commence à comprendre maintenant. Enfin, je me disais, mais franchement, comment les gens font pour être salariés, quoi, genre, je comprends pas le principe. Mais en même temps, là, je me dis, mais comment les gens font pour être entrepreneur? C'est si difficile. Les deux sont difficiles, en fait. Il n'y a pas, tu vois, un chemin qui est plus facile. Et pareil, je me plains pas du tout, mais pour la création de contenu, en fait, c'est difficile, tu vois. Ça paraît si facile que tout le monde peut le faire. On a des privilèges, des avantages, etc. par exemple, je me lève à l'heure que je veux, je peux organiser mon planning comme je le veux, mais en même temps, je travaille tout le temps, tu vois. Genre, il n'y a pas un moment où je pense pas.
Oui, la notion de week-end, tu disais, tu l'as pas.
Non, j'ai pas ça. Donc, même, tu vois, en avril, là, je pars un mois, je pense un peu création de contenu, tu vois. Je me dis, ah, comment je vais faire pour avant, après, tu vois.
T'auras droit quand même à un carnet, à ton carnet. Mais tu pourras écrire.
C'est que j'ai demandé, et on m'a dit que j'aurais même pas le temps pendant un mois.
Ok. Bon, c'est quand même un gros teasing.
Je vais bientôt faire un post. Je vais chercher un sponsor pour cette aventure, je crois. Donc, je vais bientôt en faire un post. Donc, on verra ça. Mais ouais, c'est le plus gros projet de ma vie. C'est un truc qu'on m'a demandé alors que j'en avais même pas encore rêvé. Donc, c'est vraiment trop bien.
Ok, bon, on en saura. Ouais. Peut-être qu'au moment, où l'épisode sera sorti, d'ailleurs.
Sûrement. Mon post, si je mets pas bientôt. Un mois à l'écrire.
Ouais, non, mais voilà, sûrement. Donc, en fait, on aura eu la réponse. Ouais. Donc, les amis, regardez sur le profil de Mathilde. La réponse, elle est déjà. Là. Au moment où l'épisode est sorti, vous avez la réponse. Alors que moi, là, pour moi, c'est terrible. Quoi.
Je te le dirai après.
Et, ouais, en off. Ah, je vais peut-être l'avoir en off. Ouais, et ben pour terminer à l'heure, quel est le meilleur moyen de te suivre, de te joindre, alors peut-être pas de te joindre du coup, mais non, en tout cas de te suivre, de suivre tes aventures et potentiellement de bosser avec toi?
Le meilleur moyen de me suivre, c'est sur LinkedIn, Instagram et newsletter. La newsletter, vous la retrouvez dans mon profil LinkedIn. Donc mon LinkedIn, c'est Mathilde Cossé. Vous pouvez évidemment m'envoyer des messages, j'ai pas de problème avec ça. Sur LinkedIn, même, j'en ai pas tant que ça maintenant. C'est pas ingérable du tout. Je suis toujours contente de recevoir des messages, des choses constructives. Par exemple, j'ai sorti une... Ah, YouTube aussi, tiens, j'ai totalement oublié ça. Mais...
YouTube, ben, je vais tout mettre dans les liens, lien merci. De la description.
Oui, j'ai fait une vidéo YouTube, une interview que je vais faire chaque année. C'était totalement lunaire. Enfin, je sais pas pourquoi. Même, j'avais ma vidéo YouTube, pendant une semaine, j'ai oublié que j'avais cette vidéo. Je me dis, ah, faut que je la poste. Et pour la poster, j'ai dû me créer un compte et tout. Et je me suis dit, mais je suis tellement à côté de la plaque niveau YouTube. Mais c'était drôle, voilà. Du coup, c'est mes réseaux principaux. Vous pouvez m'envoyer des messages. J'ai pas de... Pour me poser des questions, c'est bien posé, il n'y a pas de problème.
Et pour bosser avec toi, on le trouve aussi sur ces... Ouais, enfin, les liens, on les trouve sur LinkedIn,
ouais,
etc.
Très, aussi, je fais beaucoup de sur-mesure. C'était aussi une... Bref, c'est un autre sujet, c'est un truc un peu plus global, mais niveau business, c'est hyper difficile quand t'as ce genre, par exemple, en avril, je suis un mois pas libre, oui. Ça c'est hyper difficile. Bah ouais, et du coup, pour par exemple, l'accompagnement, bah, je suis obligée de prévoir, tu vois, dire, ah bah non, en avril, ça s'arrête, donc quand je vais rentrer, il faudra surprise, tu vois, bref. Ouais, oui, du coup, venez me voir en DM privé, sinon j'ai quelques liens sur mon profil LinkedIn, et je pense que peut-être quand ton podcast sortira, j'aurai sorti un nouveau produit.
Là, on est en février. Je pense que je dois avoir à peu près 2 mois d'avance sur les épisodes.
Mais non. Ah ouais?
Bah en fait, là, j'en sors que un tous les 15 jours. Okay. J'ai peut-être changé là. Avant, j'en faisais un toutes les semaines. Là, maintenant, c'est un tous les 15 jours. Parce que depuis que je passe en studio, c'est un peu plus de taf et tout. Et donc, bah, ça va vite, en fait. 4 épisodes, c'est 2 mois. Et donc, je pense qu'on est à peu près là. Enfin bref, tu me dis.
Ah ouais, bah du coup, je serais même pas dispo dans...
Non, bah alors, on s'arrangera pour faire en sorte... je suis libre, c'est mon podcast en vrai. Je sais juste que si je les sors les uns après les autres dans l'ordre d'enregistrement, ça fait ça. Non, mais on s'arrangera, je le sortirai pas pendant que t'es pas là. Avec les gens qui disent, hey, super Mathilde le podcast, et toi, t'es pas là du tout. Non, non, on va s'arranger. Bah merci, tout ça je vais mettre les liens dans les notes de l'épisode. Ouais, et puis ben merci beaucoup Mathilde pour ton honnêteté, cool. Ta transparence. C'est la fin de cet épisode et peut-être le début d'une autre histoire ensemble. En tout cas, je te propose 3 options pour continuer. Première option, rejoindre ma newsletter VIP, le carnet de Mathieu, dans laquelle je donne à partir de chaque épisode un case study ultra détaillé de personal branding et une méthode que tu peux appliquer toi-même. J'y mets beaucoup de soins et d'applications. Si tu souhaites la rejoindre, je mets le lien dans les ressources de l'épisode. On est déjà plusieurs milliers. Deuxième option, me faire un retour sur l'épisode. Ça me fait toujours plaisir. Je réponds à tout le monde. Le plus simple pour ça, si tu es déjà dans ma newsletter, c'est de répondre directement à l'email. Sinon, c'est sur LinkedIn. C'est le réseau sur lequel je suis le plus actif. On se connecte, on parle en MP, message privé. Ça fera toujours très très plaisir. Troisième option, je suis expert en personal branding pour entrepreneurs et dirigeants. Et donc, je peux t'accompagner à construire ta marque personnelle en 3 mois pour la mettre au service de ton business. Voilà pour les 3 options. Tout est dans les liens de la description de l'épisode. Je te dis à très très bientôt. Ciao !